Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
J'avais commencé à faire un script. En fait, j'ai écouté, je pense, trop de trucs de toi.
Ah bon. J'ai fait une overdose ce week-end.
Non, l'enfer. C'est pour ça que je me dors.
Je me suis dit, en fait, non, mais je te dis ça en rigolant avec beaucoup d'humour. Mais je me suis dit, en fait, ça serait, en fait, j'arrivais pas. Il y avait tellement de sujets, tellement de trucs, et je me suis dit que je rentrais un peu dans le rôle de l'intervieweur que j'aime pas à tout imposer en fait et à dire ah putain il faut que je lui parle de ça et puis après il faut que je lui parle de ça et puis en fait je vais lui retourner cerveau et puis ça va pas être cool, ça va pas être un bon moment, donc je te propose que ce soit beaucoup plus instinctif et voilà. Après j'ai très envie que tu me racontes cette course parce que j'étais là forcément et que cette distance elle fait peur, elle elle intrigue, elle fascine, que c'était une année particulière aussi.
Moi, je l'ai pas raconté. Tu disais, t'as rien entendu, mais j'ai fait, je sais pas que j'ai fait exprès, mais en fait, justement, je l'ai pas fait parce que, enfin, tu vois, on a parlé, j'ai une petite agence de com, et moi, mon rêve aussi, c'était d'accompagner les athlètes de haut niveau. Du coup, d'une certaine manière, je deviens mon propre laboratoire. Et ce que je conseillerais à un athlète, c'est un peu de raréfier sa prise de parole pour la qualifier d'une certaine manière. Et du coup, plutôt que de faire plein de choses, je préfère faire un truc avec, quelque chose de précis avec quelqu'un. Tu vas mener un projet avec quelqu'un que j'apprécie ou que je trouve qui sort un peu de l'ordinaire. De façon un peu singulière pour raréfier ce moment et du coup je me suis même pas encore replongé dans ma course de l'UTMB, je l'ai même pas raconté, enfin tu vois je l'ai pas raconté globalement.
Bah tu sais quoi, on peut commencer là.
Ouais, tes règles du jeu, elles sont cool en tout cas.
c'est quoi ton premier souvenir de l'UTMB quand je te dis ça?
Ouais, je pense forcément c'est la ligne d'arrivée et le contraste entre le sentiment de joie, de bonheur, de légèreté que t'éprouves dans les 500 derniers mètres en comparaison des courbatures, de la douleur et de l'intensité de l'effort que t'as que t'as ressenti globalement depuis le kilomètre 100, c'est-à-dire les 69 kilomètres auparavant. C'est ce contraste-là et en fait, tu te rends compte que il y a une... C'est là où tu prends conscience, tu franchis une porte et tu rentres dans un monde magique où tu sens plus rien et en fait tout ce qui était au préalable, la prépa, même les investissements depuis des années en temps, en argent, en sacrifices divers et variés, et tous ces kilomètres que t'as parcourus, ça vaut le coup juste pour ces genre. J'étais pas très rapide, donc du coup je me dis 500 mètres, j'ai dû les faire en 2 minutes 30, tu vois. Mais ça vaut trop le coup, c'était exceptionnel et je suis prêt à réinvestir autant de temps et d'investissement pour le revivre.
Ok. Est-ce que c'est à ce dans le genre de moment que tu comprends peut-être la forme d'addiction que peuvent avoir certains athlètes de haut niveau à cette bouffée d'adrénaline, quoi. Et t'as plein d'athlètes, tu vois, moi, qui m'ont dit, et pourtant qu'on fait des belles choses après, tu vois, qu'on montait des boîtes, qu'on fait la fête, enfin, chacun fait un peu ce qu'il a voulu. Mais il y en a quand même beaucoup qui disent, c'est difficile, quoi, de revivre ce que, ces grands moments de liesse, y a peut-être rien d'aussi intense, quoi.
C'est exactement ça. Je pense que c'est un shot qui est comparable à nul autre. Et je dirais même que dans l'ultra trail, il est encore plus puissant lié au fait que nous, on a deux ou trois objectifs grand max dans l'année. Donc quand tu mets la balle au fond, genre, c'est pas comme en biathlon où ils ont quatre courses par week-end et t'es pas bon à Oberhof, c'est pas grave, il y a le Grand Bornand qui arrive dans une semaine. Là, t'es pas bon à l'UTMB. En gros, faut que t'attendes un an avant d'avoir l'opportunité de revivre ça. Donc, quand ça se passe bien.
Tout le monde le sait que t'as pas été bon.
Du coup, tu te portes pendant un an. Alors que quand tu réussis, t'as conscience de ça et tu sais que ça va durer. Tu vas pouvoir. C'est un peu la rançon, c'est-à-dire que tu vas pouvoir capitaliser longtemps dessus. La vague de kiff, elle va durer longtemps. Par contre, si ça se passe mal, c'est le jeu, la déception, tu vas vivre avec pendant pas mal de temps. Donc le shot d'adrénaline, comme tu sais que tu vas en avoir que deux ou trois dans l'année, et forcément l'UTMB c'est deux ou trois, quand ça se passe bien, ça décuple la puissance du truc, quoi. C'est un peu comme la Coupe du Monde tous les 4 ans, je pense, ou comme les JO, c'est le fait que ce soit rare qui fait que c'est aussi puissant.
Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a un spleen après ?
Ouais, tout. Ouais, il y a un spleen, il y a un vrai spleen. Et je suis en plein.
Quand
Moi, t'aurais à toquer à la porte il y a 3-4 jours, je t'aurais accueilli avec mon spleen, tu vois. Salut, enchanté, c'est Baptiste, voici mon spleen. Mais je pense que c'est vachement hormonal. Moi je l'explique scientifiquement. D'ailleurs, mon frère, tu vois, il veut devenir médecin du sport. Et ça fait plusieurs fois que je le pousse, ah, vas-y, fais des études sur les hormones après l'ultra et tout, parce que je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus. Enfin, tu vois, tout ce qui est sérotonine, endorphine, adrénaline, globalement, t'as les jauges qui sont à plat. Et donc, du coup, moi, je me sens, ouais, presque... En fait, je suis mélancolique plus que triste, parce que j'ai une joie de fond, mais j'arrive plus trop à ressentir des émotions. J'ai fait un test, justement. Je me suis mis devant un truc hyper triste, qui me rend hyper triste d'habitude, genre un film, tu vois, qui me rend hyper triste. Et en fait, je ressentais rien. J'avais plus d'empathie. Ouais. Et la joie, c'est un peu pareil. T'es un peu ailleurs, en fait. Et c'est ça, ce spleen.
Ouais, ta jauge d'adrénaline, en fait, elle est vide. Tes capteurs de sérotonine, ils captent plus rien.
Tout. Et... C'est pour ça que t'arrives plus. Mélatonine aussi, je pense, c'est pour ça que t'arrives pas à dormir.
T'as eu des problèmes de sommeil, toi?
Ah ouais, pendant un ultra, après un ultra. Moi, c'était simple. Après l'UTMB, on a fini, du coup, là, j'ai dû finir vers 15h. Aussi, je m'en souviens bien, en fait. Il y avait marqué 15h36. Non, 38. 15h38 ouais. sur le chrono. J'ai eu 10 minutes dans un autre monde de joie, et puis là j'ai pris un retour de bâton. Après j'ai passé 6 heures à l'infirmerie parce que je pense j'étais allé loin dans le puis j'étais déshydraté, je pense que j'avais fait un petit malaise. Après on a fait une soirée avec le team pour fêter ça, mais là j'étais complètement ailleurs. Après j'ai pas dormi de la nuit. Ça fait bizarre d'être un peu ivre, tu vois, pompette et pas dormir. Normalement tu dors. Là t'es là qui tourne. Puis après, je me suis levé le lendemain matin, je suis allé à la cérémonie de l'après-midi. Après, on est allé en concert, en teuf, avec mes copains, pour fêter ça le dimanche soir.
T'avais les cannes encore
Mais franchement, ouais. Parce que j'arrivais pas... Déjà, je suis passionné de musique et c'est la tradition, c'est aller fêter quand ça se passe bien. Même quand ça se passe pas bien dans la... À écouter de la musique et boire des coups. Et là, toujours pas, j'ai pas réussi à dormir. Pendant deux jours et demi, je dirais, j'arrive pas à dormir. Et après, tu dors pas parce que t'as encore l'excitation. Je pense aussi que tu dors pas parce que t'essayes de capitaliser sur les réseaux sociaux ce que tu viens de réussir. Et donc, ouais. Du coup, je pense que t'as une grosse charge cognitive. Donc, quand tu t'endors, ben, t'as passé pas mal de temps sur le téléphone. Donc, ça aide pas à dormir. Et ouais. Du coup...
Ça aussi, ça participe à te vider tes charges de dopamine aussi.
ouais, mais du coup, c'est bizarre parce qu'en même temps, ça les rehausse parce que tu lis des trucs.
Ouais, c'est ça.
Genre, on te donne de l'amour par ton téléphone. C'est comme si t'avais un mec qui venait en camion et qui te livrait de l'amour, des bonnes étoiles et tout. Du coup, moi, j'essaye de répondre à tout le monde parce que du coup... Répondre à tout le monde, même s'il y en a beaucoup, ça te fait conscientiser chaque message. Et en fait, quand t'as pas été programmé pour ça, bah, tu considères tout comme un privilège. Et du coup, moi, je me sens privilégié et c'est inconcevable de pas répondre, en fait. Alors, parfois, je mets des semaines à répondre, mais je le fais, quoi. Et c'est dans ma to-do list jusqu'à que je l'ai pas fait.
Ok. Tu penses qu'il va durer jusqu'à combien de temps, le spleen?
Et ben là ça va mieux. ouais, mais je pense que parce que j'ai été très indulgent et bienveillant envers moi-même, je me suis très peu entraîné. J'ai fait pas mal de choses qui me plaisent à côté. Moi j'ai cette chance d'avoir d'autres passions, mon boulot et la musique, et je me recharge vraiment auprès de mes proches, que ce soit amis, famille. Donc j'ai fait beaucoup ça. Et en fait, j'étais très indulgent, j'ai attendu que ça remonte. Et là, c'est en train de remonter. Et là, j'ai fait une semaine, tu vois, où j'étais totalement un peu débranché de mon travail et de mon quotidien avec le stage de l'équipe de France. Puis je suis allé faire l'assistance de Thibaut Barognan, un ami sur son ultra trail à Nice.
Okay.
Et là, en fait, ça y est, j'ai l'impression que j'ai à nouveau les batteries pas pleines, mais à 75%.
Ouais. Tu commences à avoir l'envie de revenir, quoi.
Ouais, exactement. Mmh. Alors, l'entraînement, pour l'instant, ça m'en va pas trop. En vrai, tu vois, la flamme a laissé place à la flemme. Vraiment, j'ai la flemme.
Ok.
Vraiment la flemme. Mais je me dis que ça va revenir. Ouais. Je pense, j'espère. J'ai encore rien fait, du coup faudra que ça... Non, mais je suis sûr que ça va revenir. Je pense que inconsciemment aussi je me protège pour pas repartir trop tôt, pour pas risquer une blessure, pour pas faire d'erreur.
T'as raison. Enfin, il faut...
Bah, je sais pas si. En tout cas, c'est les conseils qu'on me donne et du coup, maintenant, j'ai l'impression que c'est la bonne option.
Ouais. Mais ce qui est marrant en t'écoutant, c'est de conscientiser à quel point, même pour les grands sportifs, même pour les athlètes de haut niveau, une fois que t'as mis un break et que ça devient plus une habitude le sport, en fait, s'y remettre, c'est si douloureux, quoi.
Ouais.
Et tu vois, j'en parlais, moi, après les vacances, à un pote, tu vois, vraiment, qui est un peu en surpoids, et ça faisait plusieurs mois, tu vois, qu'il me disait, reviens, est-ce que je peux venir avec toi, on se remet au sport. Je lui avais dit, vas-y, à la rentrée, je l'intègre avec moi, sur quelques séances, tu vois. Et il m'écoutait me plaindre, tu vois, après le retour de vacances. Et il comprenait pas, il me dit, mais toi, t'es une machine, machin. Je lui dis, ouais, mais en fait, là, quand t'as fait un mois de pause, c'est, en fait, je suis revenu au même stade, quoi. Il faut tout réenclencher, quoi. Et c'est, alors, ça se réenclenche beaucoup plus vite,
oui,
tu vois, mais la première fois est, je pense, tout aussi pénible.
Ouais, il y a une forme de léthargie, un peu. Mais c'est comme quand t'ouvres les vannes de la fatigue, quand t'ouvres les vannes, ça vient fort et ça dure longtemps et ça te percute, quoi. Je pense que ça, c'est un peu ça.
Ouais.
Mais moi, je suis indulgent par rapport à... Enfin, j'essaye d'être indulgent. Pour toi, je sais pas si t'as... Dans tes premières séances de sport à la rentrée, tu t'es mis direct dans le rouge ou tu te dis non, c'est normal et je l'accepte. Mais moi, c'est ce que j'essaye de faire et je me dis que ça va revenir naturellement, quoi.
Bonne question. Je sais pas quelle stratégie. Je suis un peu de la stratégie de ceux qui se font mal quand même, pour que ça revienne vite, tu vois.
Okay, je vois.
Je me dis de toute façon, ça fera mal que ça fasse mal aujourd'hui ou dans un mois, ça fera mal. Donc, je rattaque assez vite.
Okay.
Ce qui est pas toujours recommandé. Mais on pourra en reparler parce que là, je m'entraîne pour un événement à peu près sérieusement. Donc,
okay. Et c'est quoi?
Ça s'appelle Aerox. C'est un mélange de CrossFit et de course à pied.
Ok.
Et en gros, les compètes sont toutes les mêmes. C'est 1 km de run, okay, ensuite un mini wod. Donc souvent, c'est des, tu vois, ça va être des burpees, du rowing, donc du rameur, des wall ball, du ce qu'on appelle du slate. Tu sais, c'est pousser ces espèces de chariots. Mmh. Et donc, et à chaque fois, c'est 1000 mètres ton mini wod fois 8.
Wow.
Donc et souvent c'est très, les WOD sont très concentrés, c'est quand même sur des exercices de jambes. Donc tu vois, je te disais burpee, le slate, le rowing. Donc tu dois avoir à la fois un gros niveau de cardiovasculaire, enfin en tout cas tu montes très très haut dans les tours, tu te mets dans le rouge sur 1000 mètres et tu repars les jambes complètement congestionnées, quoi.
Moi, ça peut te rassurer. Je serais pas ton adversaire. C'est typiquement le truc où je suis vraiment trop nul.
Ah ouais.
Et ça m'impressionne. Tu vois, ceux qui sont capables de faire ce genre d'effort. Moi, je suis assez fort. Enfin, je m'impressionne facilement. Je suis facilement impressionné par les efforts de choses que je sais pas faire. Et franchement, tu vois, par exemple, typiquement le CrossFit ou les choses comme ça, moi, je maîtrise pas du tout. Et quand je vois combien tu peux avoir une maîtrise de ton corps et tout, je me dis, ah ouais.
C'est chaud.
Il y a du chemin.
Je reviens. Vas-y, vas-y.
Et c'est quand ta compétition?
C'est le 11 novembre.
Ok.
C'est le 11 novembre et.
Jour férié alors. Sauf pour.
Alors ça tombe
un samedi. Tes quadris.
Ça tombe un samedi, 9h du matin, faut être dans le bain. Et là, j'essaie de rencontrer des. En fait, c'est la première compète en France. C'est un concept américain qui existe depuis 3 ans. Okay. Qui est arrivé en Europe début d'année 2022. Donc il y a déjà eu plusieurs compétitions européennes, là c'est la première compétition sur Paris. Donc si tu veux, il y a un espèce de gros niveau où en fait, un peu comme sur l'Ultra Trail d'ailleurs, où t'as les meilleurs en fait qui vont faire toutes les compétitions européennes. Parce que ça ressemble d'ailleurs un peu au circuit Ironman, c'est que le gagnant de chaque compète est ensuite invité sur la compétition internationale. Donc t'as les championnats du monde et il faut gagner soit Londres, soit Paris, soit Madrid, soit Berlin, enfin etc. Okay.
Et la finale elle est où?
Je ne sais plus. Très bonne question. Très bonne question. En fait, j'ai même pas regardé parce que
je savais qu'il y avait pas grande chance.
Je vais être honnête. Hein. Franchement, j'ai vu les gars. Ils partent en 3-20 le kilo.
Ouais.
Et ils arrivent à tenir sur les
8.
Les wods d'après. Tu vois, sur les 8. Et c'est chaud. Enfin, moi, j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire le wood. J'ai essayé de faire, ok, en partant à 3:30, je tiens pas deux tours, quoi.
Ah tu ouais, t'es pas passé le niveau 2.
Donc, j'ai pas passé le niveau 2. Donc, ça va plutôt essayer de tenir, un 4-10, 4-15. Et peut-être de redescendre, tu vois, à 4-20, 4-30 sur les deux derniers, tu vois. Okay. Mais si j'arrive à faire ça, je fais une très bonne course. Je suis content de moi. Mais revenons à toi d'ailleurs, vu que tu me fais parler prédiction. Et si on parle un petit peu de Chamonix et de l'UTMB,
ouais.
T'arrives avec quel objectif et quelle envie?
Ben, j'arrive avec ce que j'identifie aujourd'hui comme une clé pour réussir l'UTMB. J'arrive avec l'apaisement lié à une saison qui est déjà réussie. Mmh. Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je réitère pour réussir mon UTMB, c'est-à-dire ne pas tout jouer sur l'UTMB. J'imagine que c'est un dilemme, parce que si tu joues pas tout sur l'UTMB, ça veut dire que t'arrives quand même un peu rincé émotionnellement, mais en même temps, t'as cet apaisement qui te fait dire qu'en fait, peu importe le résultat, demain, ben il y aura toujours un match de foot sur Canal Plus le soir ta saison elle sera déjà réussie en fait, donc j'arrive dans ce mood là je me suis offert l'opportunité de vivre un baptême paisible parce que ma saison est plus que réussie et je rêvais de découvrir l'UTMB dans cette disposition là, c'est à dire sans pression liée au résultat, et donc en fait je me suis dit tu t'es fait un cadeau. Franchement, on va pas te l'abîmer en te mettant en tête des chronos ou des classements. Et donc, j'arrive dans ce mood-là. Après, tu vois, moi, j'aime pas trop quand on déverse des robinets d'eau chaude en me disant... Enfin, j'aimais pas trop les athlètes qui disaient ça. Ouais, je viens à l'UTMB pour me faire plaisir. Ben, en vrai, fais-le en off, tu vois. et les dossards sont chers. Donc, si tu veux le faire pour faire plaisir, va le faire... à un autre moment que fin août ou début septembre. Par contre, j'ai compris maintenant ce qui disait je viens pas pour le résultat, je vais d'abord finir la boucle. Et je pense que ça peut paraître un peu un discours de façade, sauf que je me suis rendu compte que c'était profondément vrai en fait. Si tu penses trop tôt au résultat, ben en fait tu te trompes. Tu penses que tu te trompes et que tu te bouffes de l'énergie, et l'énergie qui te sera nécessaire en fait pour quand le combat va vraiment commencer. Donc voilà, j'arrive apaisé et vraiment aligné entre le discours de façade et le discours interne qui dit que je veux juste finir et faire de mon mieux.
Ok, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, parce que tu vois, là ça fait 4 ans et demi que Extraterrain existe, et je pense que mon plus gros enseignement de toutes ces interviews, c'est ce que tu viens de dire là. C'est ce discours qui peut sembler complètement de façade des grands champions qui te disent j'y vais pour faire une bonne course avec moi-même, j'y vais pour découvrir des limites. Et tu sais, de l'extérieur, tu peux te dire quel faux cul lui. Tu vois, un peu, tu penses tout bas, tu veux être bienveillant, mais t'as quand même cette petite voix un peu parasite qui te dit ça, tu vois, de l'extérieur. C'est pas malveillant, tu vois, c'est juste, tu vois, c'est...
Non, mais c'est naturel, je vois tout à fait.
C'est naturel. Et en fait, un des gros enseignements, c'est que j'ai tiré, c'est que ces discours-là, ils peuvent paraître faux, mais en fait, ils doivent être vécus comme sincèrement par la personne qui les prononce.
C'est exactement ça.
Pour être relâché, pour être bien, et pour se convaincre qu'effectivement, la première étape, c'est kiffer sa course, quoi.
Exactement.
Et si tu ne kiffes pas, tu ne peux pas gagner. C'est la première étape, c'est kiffer. Franchement, enfin, pas forcément kiffer, mais en tout cas, dérouler ton plan et être centré sur toi-même et sur tes sensations.
C'est exactement. Je sais pas comment verbaliser ou surenchérir ce que tu viens de dire, c'est exactement ça.
Bon, c'est bien complété. donc, t'arrives apaisé sur un tapis volant, tout bien. Alors, peut-être pour ceux qui te connaissent pas bien, t'arrives avec le titre de champion de France de trail long.
Exactement.
Une course sur laquelle déjà t'étais pas spécialement attendu. Quand même, les gens te regardaient. Peut-être pas grand favori.
Moi, j'étais dans la meilleure des situations, un peu suffisamment pour... Il y a une punchline de rap qui dit ça. Suffisamment outsider pour vivre dans la tête de mes concurrents sans payer le loyer, tu vois.
Je sais pas de qui elle est, mais elle est belle.
C'est de Damso.
Ok.
Et c'est marrant parce qu'en fait, on a une private joke avec Thibaut Baronian à propos de ce son qu'on a écouté en faisant la reco justement des France et Week-end Incroyable où un de tes meilleurs potes dans ce milieu-là, il devient champion de France la veille et toi tu le fais tu le fais le lendemain alors que le mois d'avant, alors que tu reconnaissais la course et que tu arrives à la ligne d'arrivée, tu dis putain t'imagines si on était champion de France tous les deux ce week-end-là, mais ça arrive, bref. Et du coup j'étais dans cette position pas favori mais du coup assez outsider pour pouvoir tu vois me sentir légitime sur la ligne de départ parmi les autres quoi.
Bah largement ouais. Et ok. Donc déjà donc t'as des petites ailes, t'as le petit tapis volant et t'y vas pour kiffer à Chamonix et Thibaut était à Cham d'ailleurs sur un format plus court.
Ouais, il était sur la CCC.
Ok. T'es arrivé quand toi sur Chamonix cette semaine?
Alors moi je suis arrivé le mardi matin.
Okay.
On logeait dans un appart assez sympa dans le centre de Chamonix avec le team, comme on le fait sur globalement toute Team Cidas Matrix, globalement sur toutes les compétitions en fait. Et mais bon, je suis arrivé le mardi, mais moi j'habite à Combloux, enfin, la grande majorité du temps maintenant. Et je suis certainement pas celui qui court le plus vite autour du Mont Blanc. Par contre, je pense que c'est moi qui le vois le plus tous les jours. Je me lève, je vois le Mont Blanc. Donc j'habite à 30 minutes. Donc okay. Si tu veux, ça m'a pas fait un grand changement de venir à Chab le mardi matin.
Ce déménagement à Combloux, c'est un déménagement conscient et stratégique pour te rapprocher de la montagne.
Oui, et assez naturel aussi. C'est pas forcément. En fait, j'ai la chance que. Donc moi je suis lyonnais de naissance, enfin j'ai grandi entre Lyon et Saint-Etienne globalement parce que toute ma famille est de Saint-Et, mais je suis né à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon, puis à Paris, en étant très souvent à Saint-Etienne. Bref, je suis plutôt un enfant de la ville et mes parents il y a 15 ans ils ont acheté un appart à Combloux, à la base je pense que c'était pour y aller en vacances et le louer le reste du temps. Et ils n'avaient pas envisagé que leur fils qui faisait des études à Paris un jour ferait du trail ou quoi et qu'il squatterait, qu'ils aient un squatter, tu vois, tout le temps globalement. Et en fait globalement c'est leur contribution à mon projet. J'ai énormément de chance, moi, mais ma famille sont à fond derrière moi, mais typiquement, enfin tout pile la distance qu'il faut, genre ils sont à fond mais pas trop présents, enfin ils sont géniaux et à la bonne distance. Et du coup, c'est leur contribution à mon projet. Globalement, ils louent plus l'appart et on squatte quand on veut avec mon frère et ma sœur. Donc, okay. Je vis pas chez moi, je vis chez mes parents encore un peu, mais ils sont pas là.
Ouais. Donc ouais, ça s'est quand même bien goupillé, quoi.
C'est hyper bien goupillé. Ouais. Et surtout, ça a matché. Donc, je suis coaché depuis 5 ans par le même entraîneur qui s'appelle Simon Gosselin, qui est un jeune aussi. Qui est plus jeune que moi même et il m'a dit un truc un jour, il m'a dit bah tu sais le coureur il ressemble à son terrain d'entraînement, donc globalement si tu veux être fort à l'UTMB bah faut que t'habites dans le coin quoi. Et cette phrase elle m'a jamais quitté et c'est pour ça que maintenant en amont de chaque gros objectif j'essaye quand même d'aller m'imprégner un maximum de ce que je vais retrouver pour que ça soit un maximum naturel possible. Effectivement Combloux, les terrains d'entraînement de Combloux, c'est vraiment l'UTMB, quoi. CTRL-C, CTRL-V. Du coup, je suis pas trop surpris quand je cours autour du Mont Blanc.
Et tu comprends, du coup, la stratégie de certains coureurs, là, qui déménagent et qui viennent s'installer?
Ouais.
Ouais, c'est.
Je pense que ça optimise. C'est une des clés d'optimisation de la performance. C'est sûr. C'est. Ouais, je comprends et je trouve ça admirable parce que c'est un choix de vie pour une course qui a lieu, t'imagines, tu te prépares 364 jours de l'année pour ça, globalement.
Ouais.
Et si t'es pas là et tu délivres pas la cam correcte le jour J, t'en fonds pour 364 jours. Et du coup, choix de vie, enfin, pari ultra risqué, quoi.
Ouais.
Donc, je trouve ça admirable.
Et est-ce qu'en démarrant cette course, tu t'as anticipé ou t'as peut-être préparé le fait que tu puisses accompagner, que tu puisses abandonner, pardon, excuse-moi, la distance est genre hyper dure quand même.
Ouais.
Ça va tellement vite. Et je t'avais entendu dire dans une interview que, tu vois, quand tu prenais un pari, il fallait aussi accepter de le perdre. Mmh. Et que psychologiquement, il fallait être prêt à abandonner une course si le pari que tu faisais sur cette course était élevé, quoi. Mmh. Et du coup, la question que je voulais te poser, ouais, c'est est-ce que tu... Enfin, quelle est du coup ta relation à la défaite et à l'abandon en fait avant de partir ? Est-ce que c'est ok, ça peut arriver, it's fine ? Mmh. Est-ce que c'est non, mais c'est pas parce que je dis ça que je vais me laisser m'abandonner comme ça, tu vois ? C'est quoi ta relation ?
Ouais.
Alors,
je pense qu'il y a des courses où quand tu veux gagner, il faut être capable de prendre le risque de perdre. C'est ce que j'ai fait au championnat de France, c'est ce que j'ai fait à la Saint-Élion l'année dernière. Donc à Saint-Élion, c'est pas passé comme prévu, j'ai pas gagné, mais j'ai visé la ligne, je suis retombé sur une étoile, donc c'est fine, comme tu disais. Il y a d'autres moments où j'ai essayé de gagner, où j'ai vraiment perdu, et j'ai abandonné, comme ça m'est arrivé une seule fois d'abandonner, c'était au championnat de France en 2021. Et là, sur l'UTMB, un peu comme sur les mondiaux, bon, sur les mondiaux, ça s'est pas passé comme prévu, mais dans le mood, en tout cas, dans lequel j'étais avant, c'était, je prends pas suffisamment de risques pour abandonner. Globalement, je suis assez prudent pour avoir la certitude, ou du moins maximiser mes chances de finir. Et tout, c'est toujours le juste équilibre. Et du coup, pousser au maximum le curseur prudence pour réaliser la plus belle perf possible. Mais j'ai conscience que si un jour je veux gagner l'UTMB ou si je veux finir sur le podium à minima, ben, je devrais pousser le curseur de risque un peu plus haut que je l'ai poussé sur cette découverte, parce que là, mon objectif, c'était vraiment de finir, quoi, de boucler la boucle une première fois, afin de savoir si ça me plaisait et afin de savoir si j'avais des capacités pour ça.
Ok.
Je suis doublement convaincu, du coup.
Ok. Je sais que tu visualises aussi pas mal, même beaucoup. Qu'est-ce que tu avais visualisé en particulier sur... cette année?
Ouais, je fais un travail de prep mental qui, la visualisation, elle consiste à découper la course en segments. Je pense que tu connais bien ça et dans les podcasts que tu as pu faire sur, alors eux, ils sont plus dans la décomposition du geste aussi, parfois. Moi, c'était plus en segments temporels, enfin. Et du coup, j'ai visualisé un petit peu, le mood dans lequel j'étais. Et du coup, il y avait 6 segments, globalement, je peux te les donner. Le premier, c'est vraiment, j'avais donné un titre à chacun, comme les chapitres d'un livre. Le premier, c'était Disneyland. Genre, profite d'être là, prends un maximum de kiff, de bonnes ondes, et en fait, sois un enfant, tu vois. Émerveille-toi. Déjà, ça fait passer pas mal de temps, comme ça, tu penses pas, si tu t'émerveilles, tu penses pas au reste, c'est bien. Mmh. Bon, c'est pas passé comme, tout à fait comme prévu, parce que j'ai fait une petite crise de panique dans la première montée où je me sentais ultra angoissé, mais on pourrait y revenir, donc Disneyland. Mmh. Ensuite, deuxième segment, que j'avais appelé la porte d'entrée. Genre, la porte d'entrée dans mon UTMB à moi, c'est, une fois que tu quittes Notre-Dame de la Gorge, et là, ça y est, t'es seul face à toi-même. Ensuite, des Chapieux jusqu'à Courmayeur, je l'avais appelé le voyage intérieur. Genre, c'est la nuit, t'es tout seul, c'est la partie globalement la plus sauvage parce que tu vois très peu de monde avec le passage aux pyramides calcaires. Et bah là, tu sais, de nuit, le silence te pousse à être hyper alerte sur tes autres sens, les odeurs, les bruits, tout ça. Donc voilà, vraiment un voyage un peu sensoriel et intérieur. Et à partir de là, j'avais 6 moods. L'entrée progressive dans le combat jusqu'à Arnouva. Le dépassement de soi et le supplément d'âme sur le cinquième segment. Et ensuite, en fait, le côté mettre la balle au fond. Genre, faut vraiment finir, quoi. Et être... gros un tueur, en gros un tueur à sang froid jusqu'à ses 500 dernières lignes, 500 derniers mètres où là ça y est tu peux te laisser complètement pénétrer par les émotions. On s'est pas tout passé comme prévu mais sur le papier c'était comme ça.
OK. Mais non mais c'est un super tips, je trouve c'est trop c'est vachement utile déjà je pense. Et c'est beau la façon avec laquelle tu l'as décoré et t'as amené tes émotions quoi.
Ouais.
Et du coup tu te faisais des séances dédiées à une partie peut-être.
Ouais. Exactement. Okay. C'est avec ma prep mentale. Du coup, on avait défini ça globalement 2 semaines en amont. Et en fait, après, pendant, on a fait une dernière séance à S-1 de l'UTMB à peu près. Et sur cette dernière séance, d'ailleurs, elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, en vrai, Baptiste, je vais pas te faire une, enfin, on va pas faire une séance aujourd'hui. T'es prêt. Donc, enfin, ouais, t'as des trucs qu'on peut en parler si tu veux, mais tu sais, c'est le moment où ça sert à rien de surenchérir, t'es prêt, donc, vas-y, elle m'a dit juste, d'ici le jour de la course, prends 10-15 minutes chaque jour et concentre-toi spécifiquement sur un des segments, celui que tu veux, qui t'inspire un peu comme ça, à la volée, et c'est ce que j'ai fait de manière très simple, tu vois, intuitive.
Okay. Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe du coup durant Disneyland?
Ouais, Disneyland. Alors, franchement, déjà le premier kilomètre, au bout d'un kilomètre, je m'étais dit, ouais, bah c'est bon, l'UTMB il est réussi. En vrai, j'ai pris tellement une charge. Le premier kill, c'est un truc de fou là dans les rues de Chamonix. C'est. Pff, ouais. Et mais en fait, ce qui est dur, c'est qu'il faut que tu te frustres parce que tu sais combien ça va être long derrière. Et du coup, faut que tu profites tout en appuyant sur la pédale de frein. C'est un peu, alors que moi, j'aurais envie de partir à bloc, taper dans toutes les mains et tout, tellement tu te sens. Et du coup, t'es un peu sur, le kiff et la pédale de frein. Donc déjà, c'est un peu, ça, j'ai eu un peu de mal quand même à vivre ça. C'est la première fois que ça me fait ça comme ça. Normalement, le sentiment de joie intense comme ça, il est plutôt sur la fin. Et après, dans la première montée, ça a plus été Disneyland. Je sais pas, j'ai fait une sorte de crise de panique liée à l'ampleur de la tâche. En fait, j'ai pris conscience de la ferveur de l'événement. Il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de bruit.
C'est la folie, ouais.
Et c'est incroyable, hein, c'est génial. Et moi, je suis pour que ça continue. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui dit qu'il faut que ça se... Je pense qu'il faut que ça se... que ça soit contrôlé effectivement et peut-être un peu régularisé, mais enfin, franchement s'il vous plaît nous enlevez pas ça, c'est trop incroyable à vivre. Et bref, et du coup une crise de panique où en fait je vois moi j'avais décidé de partir un peu à la pulsation au cardio, le pas dépasser mon seuil SV1 qui est à 165 plus par minute cardio. Et du coup, globalement, je suis à ce seuil-là et je vois qu'en fait, dans la première montée, je me fais doubler, mais genre, des groupes entiers, tu vois.
Okay.
Et je me dis, mais waouh, en fait, je dois être... J'étais préparé à ça parce que je voulais pas parler de classement. Donc, je m'en foutais normalement. Mais non, ça fait mal à l'ego et puis après, tu te retournes et en fait, il y a tellement de bons coureurs, tu dis, ah mais non, mais lui, c'est normal qu'il soit devant, en fait. Puis tu te retournes, ah, mais lui, c'est normal qu'il soit devant. Ah bah, lui aussi. Donc, au final, tu te fais doubler beaucoup, mais c'est presque normal mais j'arrivais pas à me rattacher à cette notion, comme si la prépa mentale n'avait pas fonctionné en fait sur cette première partie, et jusqu'au moment où dans la descente sur Saint-Gervais je me prends une énorme boîte, vraiment je pense que je suis pas loin de passer loin de la correctionnelle de pas finir mon UTMB. Avec Hugo Deck à ce moment-là, ouais. Et là en fait je me rends compte que, en fait, je me suis pas fait si mal, juste, je me suis fait l'ongle, là, qui est noir, et puis, je suis tombé sur le genou, mais globalement, je me suis pas fait trop mal. Et là, je me suis dit, en fait, t'es pas assez loin de la correctionnelle. En vrai, arrête de penser, va à Saint-Gervais, après on ira au Contamine, après on ira au Refuge de Chapieux, et kiffe. Et en fait, ça a été déclencheur par rapport à ma course, et là, j'arrive à Saint-Gervais, et là, je suis vraiment en mesure de kiffer, de prendre les bonnes ondes, et là, je me décorrèle vraiment du classement.
Ok. Ah, donc ça t'a remis un peu les pieds sur terre.
Ah ouais. Ouais, ça m'a remis dans l'axe.
Ok.
Paf, petit bonhomme, muscle ton jeu.
Moi, j'ai été surpris en te voyant courir de ton niveau de concentration en fait sur les ravitaux, enfin sur les moments d'assistance. Et en même temps, on sent que tu captes beaucoup d'infos. Tu regardes un peu partout.
Je suis un peu brouillon. Hein.
tu regardes un peu partout et en même temps, t'essayes de rester là, d'être dans l'instant. T'as une stratégie particulière, toi, sur les ravitaux où ils sont travaillés, millimétrés, ou au contraire, c'est plus le moment où faut un peu souffler, tu as un peu de contact humain du vrai, entre guillemets.
T'as raison. En fait, j'ai jamais réfléchi comme ça, mais je pense que moi, comme j'aime. Enfin, le trail, pour moi, c'est vraiment un vecteur de partage. En fait, globalement, ma démarche tout seul, elle aurait pas trop de saveur. Et faire l'UTMB, tu vois, sans personne, avec moi, autour ou avec, enfin, tu vois, ça a beaucoup moins de saveur. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, j'adore autant les ravitaillements, ces moments-là. Et peut-être pourquoi j'y passe autant de temps en comparaison à des adversaires avec qui, tu vois, avec qui je fight, quoi, globalement. Et en fait, j'ai vraiment du mal à en repartir. C'est un super levier de motivation de me dire, il faut vite que j'y aille. Faut que j'aille au prochain. Par contre, toutefois que j'y suis, j'ai vraiment beaucoup de mal parce qu'en fait, je me sens bien avec mes proches à nouveau. Je me sens bien avec Thomas. Donc, c'est le team manager, celui qui a créé le projet il y a 5 ans. Et tu parlais stratégie. J'ai pas vraiment de stratégie, si ce n'est plutôt la stratégie de long terme d'avoir créé des automatismes et des mécanismes avec Thomas. Et ça fait 5 ans. Moi, quand je suis rentré dans le projet, il m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, bah, je vais faire l'UTMB. Il m'a dit, OK, on va te préparer pour ça. Et quand on t'ira, tu seras prêt.
Tu le savais déjà il y a 5 ans,
ouais,
que c'était ce que tu voulais faire.
Je savais, j'avais une intuition par rapport au fait que j'étais fait pour les efforts un peu plus longs, mais surtout que c'est ce qui m'attirait. Donc, je sais pas dans quel, est-ce que parce que j'étais bon, ça m'attirait, ou est-ce que parce que ça m'attirait, je me suis spécialisé, du coup, je suis devenu un peu meilleur là-dedans. Je sais pas, en tout cas, c'était mon cap.
J'aime bien parce que tu dis, oui, un peu plus long, tu vois, et il y a des gens pour qui le référentiel un peu plus long, c'est juste, ça va être de passer, tu vois, déjà de courir de 10 km à 20 km.
C'est vrai, tu sais qu'on change vachement, on évolue, en préparant l'UTMB, tu changes toutes tes référentiels en termes d'échelle,
ouais.
de volume d'entraînement, de distance et tout. Maintenant, mes sorties récup, pour l'UTMB, elle faisait 2 heures, 2 heures et demie, tu vois.
Moi, c'est une sortie longue pour moi, tu vois.
Et oui, et du coup, maintenant, comme j'ai la flemme, ça me paraît le bout du monde. du coup, c'est là où c'est marrant. Et enfin, tu vois, c'est un mois après, et c'est seulement maintenant que je me pose un peu dessus et je prends conscience de tout ça. Donc non, les ravitaillements, pas de stratégie, si ce n'est des mécanismes et des automatismes avec Thomas, parce qu'on s'est dit qu'on lui aussi, c'était son baptême sur l'UTMB. Il est jeune aussi, enfin tu vois, il est le même âge que Simon globalement, et c'est un j'y allais pas tout seul, on y allait ensemble à ce baptême, et je pense que hormis la stratégie d'être rodé avec quelqu'un qui te connaît parfaitement dans ces situations très intenses de pression, parce que c'est comme un accordéon, en fait, globalement, pendant 5 heures, tu vas pas voir ton athlète, et boum, pendant 1 minute, ça va être concentré d'informations, il faut être hyper réactif, et lui dire les bons mots, faire les bonnes choses, ajuster les bons curseurs. Et ça, ça s'achète pas, en gros, globalement. Ça se construit avec le temps et il faut de l'expérience. Et quand tu fais que 2 ou 3 courses ultra par an, bah, ça te prend des années. Donc, voilà, c'est juste une stratégie de long terme d'être rodé avec Thomas. Et ouais, maintenant, il me voit arriver. On n'a même pas besoin de se parler. Tu sais, il y a une expression, on se dit on se sait. Bah, on se sait. Voilà.
C'est marrant parce que j'avais jamais intellectualisé cette partie technique de la course, quoi. Que effectivement t'as couru pendant 3 heures tout seul et tu dois être capable en 2 minutes de lui résumer.
Tu vois, et t'as remarqué l'esprit de synthèse en plus que j'ai, du coup. Tu vois le truc périlleux ou pas?
C'est pas mon point fort non plus, donc tu vois, j'imagine que c'est très compliqué. Non, et puis t'arrives avec ton émotion, quoi. T'arrives, il suffit que les 15 dernières minutes, je sais pas, il soit mis à pleuvoir, que le mec avec toi, ça se passe pas bien, qui est en train de courir, et que t'arrives, t'es dans un très mauvais mood, alors qu'en fait, les 2h30 avant, tout se passait super bien, t'avais bonne sensation. Tu peux trop envoyer les mauvaises informations, quoi, à l'autre.
Et c'est exactement, c'est exactement ça. Et du coup, il a qu'une partie de l'information, et ouais. Et comme c'est que des up and down permanents, moi, quand je débrief ou je parle un peu de ma course avec mes proches, il me dit, mais à ce moment-là, t'avais l'air au fond du trou. Je dis, bah non, franchement, à ce moment-là, j'étais bien. Ou à ce moment-là, on t'a vu, on était trop contents. On a l'impression que t'avais revécu, mais je sais plus comment. Bref, que t'allais mieux, quoi, ressuscité. Et je dis, ah ouais, bah là, pourtant, là, j'étais vraiment dans le dur. Et du coup, en fait. T'as raison, c'est à l'instant T, il y a tellement des up and down que peut-être faut prendre le truc comme il vient et savoir s'adapter, et ça vient que avec le temps. Et tu vois, je comprends, François Daen, c'est toujours globalement Jean-Michel Fort-Vincent qui lui fait ses assistances, et je comprends pourquoi. Je pense que vraiment que c'est une histoire de binôme et d'automatisme et de vécu commun, et je pense que ça, c'est une grande force.
Ouais, mais moi, je l'ai compris ça au dernier UTMB en voyant peut-être des duos. Alors, le duo un peu mythique, tu vois, c'est celui d'Alix et Mathieu, forcément, où on les voit, c'est millimétré, ça va super vite. T'as aussi celui de Courtenay, tu vois, où forcément qui est bourré de routine et d'automatisme qui lui sont propres, quoi. Et tu te rends compte à quel point c'est un moment hyper important pour vous, quoi. Et il faut que ça soit le plus automatique possible.
Ouais,
je pense.
Ritualiser, t'as raison, c'est le mot, c'est ritualiser, mais avec le rituel qui font qu'il y a un cadre propice à la sérénité, mais avec suffisamment de souplesse pour pouvoir s'adapter.
Ouais.
Bon, ça m'a pas empêché de. Enfin, tu vois, sur les splits. Enfin, c'est marrant, il y a des stats qui sont sortis du coup sur le temps passé au ravitaillement. Et enfin, moi, quand je vois que j'ai passé 29 minutes et que les mecs devant, ils ont passé entre 10 et 15 minutes, mais je me dis, mais comment ils ont fait, quoi? Et c'est le double, j'ai passé le double de temps et pourtant, on a fait la même course. Et pourtant, moi, j'ai eu l'impression d'aller vite. Il y a des moments où j'ai vraiment dû me mettre une petite claque, comme la petite claque qu'on s'est mis là pour refaire du sport, pour repartir, quoi.
Ouais.
Et là, quand je me dis 12 minutes, je me dis bon, déjà je me dis qu'il y a du temps à gagner, mais ça me paraît 10 minutes, ça me paraît, c'est impressionnant.
Ouais, il s'arrête pas, quoi.
Ouais, c'est fast. Donc moi, je me pose.
Je suis bien rechargé. mais c'est marrant, et je pense. Tu me disais, tu vois, en introduction, tu me disais, ouais, il y a encore beaucoup à faire, mais au moins, t'as une marge de progression qui est assez évidente, tu vois, sur ce qui est pertinent. Donc, il y a un côté rassurant.
Il y a un côté hyper rassurant. Rationnellement, il y a des minutes à aller gratter pour aller chercher le haut niveau sur cet aspect-là. À mon avis, il y a déjà 14 minutes à cet endroit.
Ok.
C'est-à-dire, je pense qu'autour de 15 minutes, ce serait bien. 10 minutes, je pense que c'est presque un peu trop. Vite, parce que je pense que t'as besoin quand même de te gorger de bonnes ondes, de trucs un peu. Et 10 minutes, ça me paraît vraiment très court pour faire tout ça.
Ouais, je suis d'accord. C'était quoi le moment le plus dur dans la course? Je sais pas, soit physiquement, soit dans la tête, tu vois. Ouais. Est-ce que. Il y a un moment dont tu te souviens, alors je sais que le cerveau, il a très vite tendance à oublier, à gommer et à atténuer les souffrances, les douleurs. Mais est-ce qu'il y a quand même un moment qui te marque encore dans cette difficulté et auquel tu te dis « Waouh !» Ce moment-là, je suis content de l'avoir passé, en fait. Tu vois.
C'est deux moments dont je suis fier, ouais, forcément. En fait, il y en a deux. Deux moments donc très difficiles et que je suis fier d'avoir passé. En fait, un physique et un mental. Le physique, c'est globalement jusqu'à Courmayeur. Après avoir passé cette petite crise de panique, j'ai connu un état de flow que j'avais jamais expérimenté auparavant. Genre le trail, c'était facile. Vraiment, ça avait jamais été aussi facile. J'appuyais, c'était fluide. Et du coup, je pense que refuge des Chapieux, j'étais peut-être pas 50e, je devais être 35, 40. Et à Courmayeur, je doublais des groupes parce que je pense que les gars s'étaient regroupés pour passer la nuit. Moi, j'étais tout seul, j'avançais. Et puis quand j'ai doublé, je doublais par quatre, quoi. Et sans avoir l'impression de forcer, j'avançais. Il y a juste Pau Capel qui m'a accroché et il me disait, putain, ça avance. Franchement, là, si on continue à ce rythme, on est bien, quoi. Il me parlait pas trop de classement. On est bien. Moi, je lui disais, ah ouais, mais moi, j'ai pas trop l'impression d'appuyer. Et jusqu'à Courmayeur, globalement, c'était hyper facile. Et du coup, à Courmayeur, j'arrive et je dis à Tom, je dis, putain, Tom, c'est hyper facile. J'angoisse de quand ça va devenir difficile. Parce que j'étais tellement dans le kiff que j'avais l'impression que j'étais plus capable de retourner dans le dépassement de soi qui est à l'opposé. Ça me paraissait trop loin. Et en fait, je suis hyper superstitieux, donc je touche du bois. Mais du coup, c'est à ce moment-là où, en fait, retour de bâton, dans la montée suivante, je me suis dit, bon, bah, je vais visser un peu parce que c'est facile, donc autant appuyer, quoi. Enfin, j'ai regardé à aucun moment ma montre, mais je me sentais bien, donc je disais, j'appuie. Et là, je suis arrivé au refuge de Berton. Ça m'a fait un peu comme aux Mondiaux, début d'hypoglycémie. Heureusement, j'avais vachement à manger, donc je m'alimente un peu, je pense, trop en peu de temps. Et là, j'ai eu le bide en vrac, mais vraiment d'un coup. Et là, je me suis dit, ah ok, en fait, c'est ça l'UTMB, c'est l'adaptation. Et là, alors là, c'est là où je suis fier, c'est très rapidement, j'ai été lucide. Je me suis dit, ok, t'étais bien, mais là maintenant, t'es plus bien. Qu'est-ce qu'on fait? T'arrives plus à manger, t'as l'estomac qui est vraiment en vrac. Donc, globalement, sur la traversée jusqu'à Arnouval, je me suis arrêté 5-6 fois, tu vois, parce que j'avais vraiment mal à l'estomac. Et en fait, je me dis, ok, bon, globalement, je vais enlever ma ceinture, parce que j'avais une ceinture pour un peu arrêter qu'elle humidifie mon estomac. Je peux plus manger, donc je vais lever un peu le pied. Et puis, au prochain ravitaillement, je vais boire du coca, parce que ma mère, elle me disait que le coca, c'était bien pour l'estomac, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça. Et, fier de moi en me disant, j'étais content d'éprouver cette difficulté-là. Et d'être capable d'y répondre avec, pas joie, tu vois, mais avec lucidité. Et là arrive un autre moment vraiment compliqué physiquement, c'est qu'en sortant d'Arnouva, je m'explose, je prends une boîte, mais là, j'étais vraiment pas bien. J'étais en hypo parce que je pouvais plus manger. Et je prends une énorme boîte et je me fais une énorme béquille. Là, d'ailleurs, tu vois, un mois après, je peux pas encore complètement plier la jambe, j'ai un gros, gros bleu. Et là, en fait, béquille plus hypo, là, le col ferré, ça a été un... Voilà, donc physiquement, à ce moment-là, j'ai croisé Alexis Berg et Ludo Pommeret qui m'ont doublé. Là, j'étais vraiment pas bien. Ça, c'est le moment le plus dur physiquement. Et le plus dur mentalement, c'est à la fin, au col des Montets. Donc globalement, depuis la foulie, j'étais au fight. Je savais que j'étais au fight pour le top 10. Mais je disais à tout le monde, à chaque fois, j'étais même devenu un peu toqué. Genre, je disais à tout le monde, même des gens qui me connaissaient pas, je leur disais, me parlez pas de classement. J'étais un peu dans mon, parce que je voulais qu'on parle de classement, je voulais pas qu'on me stresse.
C'était une de tes intentions d'avant-course, de pas entendre parler du classement?
Non, mais je pense qu'en fait, l'effet de course ont fait que je me suis retrouvé au fight pour une place très symbolique qui fait que c'est on-off. Je pense que tu fight pour 6, 7, 8, ça va. Mais je sais pas pourquoi je me suis rendu compte que je devais être sur un truc 10, 11. Et on va pas se mentir, c'est pas pareil. Et du coup, c'était déjà suffisamment difficile pour rajouter une bataille par-dessus ça. Donc je voulais pas qu'on me la dise, en fait. Peut-être pour me mentir ou me protéger. Et en fait, le moment difficile, c'est donc à partir de la foulie, je vais commencer à batailler avec un gars qui s'appelle Tyler Green, un Américain, je le connaissais pas. Après, j'ai vu qu'il avait fait deux à la Western, donc je me suis dit, c'est quand même insolide. Et en plus, il est réputé, j'ai appris ça ce week-end par Marianne Hogan, il l'appelle le closer aux États-Unis, parce qu'en gros, il close les courses, genre il finit les courses, il a un finish, t'as peur, quoi. Si j'avais su ça, j'aurais peut-être pas joué de la même manière. Et à partir de la foulie, on a commencé à courir ensemble, et vraiment, c'était un peu, j'étais plus fort en montée, il était plus fort en descente, et on faisait l'accordéon comme ça. Et j'avais tout misé sur le fait que dans la montée de la Flagère, j'allais arriver avec lui et j'allais le flinguer en boss. Et après, j'allais partir vers la 10e place. Sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Le closer qui est en lui a pas attendu et il est parti au col des Montets. Et je me suis dit, mais il est pas fort, enfin, je suis plus fort que lui en boss, c'est sûr que je vais rentrer. Et en fait, il m'a mis 20 minutes entre le col des Montets et l'arrivée. Donc globalement, il m'a mis plus d'une minute au kilomètre. et il finit 7e.
Waouh.
Ouais, franchement impressionnant. Et là, à ce moment-là, je comprends que la 10e place va m'échapper. Et là, c'est dur. Mentalement, c'est le moment le plus dur parce que plus t'arrives dans la descente technique du Béchard, là, je marchais et en fait, je me disais en fait, je vais retomber sur mon objectif initial 11, 12, 13. Je m'en fous, c'est pareil. Je veux juste finir, donc j'avais plus le supplément d'âme pour aller plus vite. Et donc ça dure 45 minutes et cadeau du destin, vraiment cadeau du destin. Je croise un gars qui me dit, il y a un mec, il est plié, il est assis au bord d'un chemin. Et moi je voulais pas y croire parce que, enfin tu vois,
ça dépend pas de toi. Quoi.
Ça dépend pas de toi et puis tu sais les gens sur le, tu sais pas quel niveau d'expertise ils ont, est-ce que c'est pas une autre course, c'est un gars de la CCC ou, je me refuse d'y croire. Jusqu'à que effectivement je trouve un cadeau tombé du ciel, un concurrent du coup Scotty Hawker qui avec qui j'avais passé un très court laps de temps mais avec qui j'avais bien discuté dans la montée de Burton et je le vois là assis.
Vous discutez ensemble quand vous montez.
Ouais, ah, il m'a dit viens on va chercher parce qu'en fait on a le même partenaire casquette. Ouais. Et il me dit, viens, on va poser deux casquettes sur le podium. Je dis, non, mais c'est pas mon combat. Je lui dis, vas-y, sans moi. Mais globalement, on a échangé 15 minutes. C'est un mec, voilà. C'est un Australien sympa. Bref, non, néo-zélandais. Sympa. Et là, je le vois assis. Et là, du coup, je suis passé du moment le plus dur mentalement où j'avais vu le top 10 s'éloigner à un moment de, genre de, je re-switch et je suis en mode ultra déter. Et je me dis putain en fait c'est la providence mais je crois ce genre de truc vraiment et votre destin qui fait que ouais il te récompense de t'être battu et tu vas le faire ton top 10 et à partir de là c'était en mode je re-switch sur le schéma mental la balle au fond et là je redeviens hyper froid et lucide et je me dis ok je vais aller mettre le top 10 le ballon en pleine lulu là de l'arche d'arrivée et je vais faire top 10 et c'est ce qui est arrivé quoi.
Ok,
voilà.
C'est marrant, ce schéma de course, on n'imagine pas, tu vois, tout ce qui se passe.
Ouais, ouais. Non, c'est...
Moi, je te vois via effectivement le classement. Forcément, tu vois, nous on regardait. Moi, j'étais là effectivement pour suivre en plus Gauthier Ario,
ouais.
Pour qui ça s'est pas bien passé. Mmh. Et
j'étais avec lui au début.
Ouais, vous avez couru pas mal ensemble, ouais. Et je vois effectivement, bon, je vois des choses que tu cites, tu vois, par exemple à Courmayeur, je vois qu'il y a un groupe de quatre avec les frères Ferrari et Alexandre Boucher aussi, ouais. qui sont là, et Gauthier. Je vois effectivement ce phénomène de groupe. Et toi, je vois effectivement à quel point toi tu reviens grignoter tout le monde, quoi. Mmh. Mais on n'imagine pas tous ouais. ces petits détails.
Mais ouais, et sans, enfin, tu t'en rends pas compte, en fait. Là, vraiment, jusqu'à Courmayeur, j'étais dans un tel flow que, tu kiffes tellement que t'as peur quand, enfin, tu sais que ça va s'arrêter à un moment donné, et en fait, t'es tellement loin de l'état de douleur que tu peux que t'as déjà expérimenté sur d'autres courses que tu dis je sais plus faire en fait. et ouais c'était un kiff et je pense que ce kiff peut être prolongé tu vois sans les petites erreurs globalement j'ai senti l'hypo arriver en Autriche j'ai eu une hypoglycémie un peu violente pendant les mondiaux et je voulais pas que ça arrive à nouveau. Et du coup, là, j'ai mangé trois gels en 20 minutes. Je pense que ça m'a détruit le bide. Et tu vois, ça, c'est des petites erreurs, en fait, de pas s'enflammer dans cette montée, alors que, en fait, le groupe devant, il était à 2 minutes. Et j'aurais pu rentrer, mais beaucoup plus progressivement, en fait. Et là, je m'affole, je veux rentrer tout de suite, parce que je suis dans l'euphorie. Et du coup, je fais une erreur sur le gel. Donc, en fait, en chaîne, il y a 3 heures de ma course. Parce qu'après, je pense, t'as une hypoglycémie, t'as mal au bide, après tu tombes et ces réactions enchaînent et tu te dis si avec un peu plus d'expérience ben tu gères un peu plus ces moments-là, même si tu sais que ça va arriver. Je pense qu'il y a personne qui a la course parfaite, c'est juste qu'il faut que le temps faible il soit le plus court et le mieux géré possible, quoi.
Ouais. Ouais, non mais complètement. C'est quoi les sacrifices qui ont été nécessaires et qui ont payé le plus pour réaliser une année aussi riche en résultats, en tout cas, que tu as pu faire ce matin. Par sacrifice, j'entends aller courir 10 heures quand on aime courir et quand on aime la montagne, c'est pas un sacrifice.
Ouais.
Je vois beaucoup dans, tu vois, les bouquins de préparation mentale, le concept de zone de génie, tu vois. Zone de génie, c'est faire ce que t'aimes et faire là où, enfin, faire des choses dans lesquelles t'aimes progresser. Mais il y a souvent, en paradoxe de ça, de, ouais, mais tu devras aussi sûrement faire des choses que t'aimes pas du tout faire.
Ouais.
Ça a été quoi pour toi, les choses que t'as pas trop aimé faire et sur lesquelles il a fallu que tu te forces?
Eh ben, c'est l'individualisme. C'est, en fait, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'assume une part de d'individualisme. Quand tu, enfin, tu vois, moi, je viens d'une famille dont je suis très proche. Je considère avoir eu beaucoup de chance dans ma vie tout le temps, quoi. Et on avait une tradition le dimanche midi. Alors on n'est pas du tout tradis et tout, mais le dimanche midi, mes parents ils aiment bien que on déjeune ensemble avec mon frère et ma sœur et que ce soit à une horaire timée, tu vois. Et jusqu'à il y a peu de temps, bon, on le fait de moins en moins parce qu'on habite plus au même endroit, mais globalement on l'a fait pendant très longtemps. Jusqu'à il y a peu de temps, ben moi le dimanche midi, enfin le dimanche matin, c'était ma journée de sortie longue dans ma démarche. Et bien souvent, ben, soit je devais me lever à 6 heures pour pouvoir matcher avec les temps communs, avec ce temps de début de repas, soit si je partais un peu plus tard, ben, j'arrivais en retard au repas. Et pendant longtemps, en fait, je culpabilisais de ça parce que je me sentais pas légitime à être en retard. Et en fait, j'avais l'impression d'être hyper individualiste, mais en même temps, ça me porte, enfin, je sais pas, il y avait une force intérieure qui me disait, il faut que tu fasses ça, il faut que tu y crois. Donc, je me sentais hyper individualiste d'imposer mon timing pour un truc en fait qui était pas du tout mon métier, qui était simplement une passion, mais en même temps c'était une conviction. Et ça, cet individualisme, alors je te parle de l'exemple du dimanche midi chez mes parents, mais en fait il était dans plein d'autres domaines.
Non, mais il est super parlant, ça, c'est sympa.
Et tu vois, il est aussi là dans la coloc, on est chez moi là, ben tu vois, quand je demande à mes colocs ouais, franchement, on sort, je suis pas très chaud que y ait des gens qui viennent pour l'apéro ou pour, ne serait-ce que pour faire un jeu de société, ou tu vois, que j'impose ou que je demande parce que demain j'ai une séance dure. Ben, ça, tu vois, c'est de l'individualisme pour moi et que quelqu'un me le demande, en fait, je me dis, bah, trop chouette, t'as un projet et tout, t'inquiète, vas-y, feu, pas de problème, je respecte. Mais moi, que je le demande, et ben, en fait, j'ai l'impression d'imposer mon timing, d'imposer des choses et je le faisais quand même, et du coup, j'étais pas en phase avec ça. Et en fait, c'est depuis, le plus gros sacrifice, c'était ce travail sur moi d'accepter ma part d'individualisme, que je dissocie vachement de l'égoïsme, du coup. Parce que j'ai fait le travail moi-même pour dissocier. Et voilà, c'est, je pense, le plus gros travail que j'ai fait, le plus gros sacrifice, c'est accepter la part d'individualisme et le fait que tu fais pas l'unanimité et que t'es obligé, en fait, d'imposer des choses et de pas être tout le temps hyper gentil, enfin, avec ultra bienveillant avec tes proches, ou je sais pas comment dire, mais angélique, quoi. Et t'es obligé d'être un peu, d'imposer des choses. Et ça, c'était le truc le plus dur à faire. Et c'est pour ça que j'ai autant envie de rendre maintenant. Tu vois, tu me demandais dans quel mood j'étais. J'ai du spleen, mais j'ai trop envie de partager, en fait. J'ai envie de rendre ce qu'on me donne parce que j'ai l'impression de prendre beaucoup quand je suis dans.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ma démarche.
Ok. Ce qui te gênait, si je comprends bien, c'était d'imposer toi ton rythme à d'autres pour vivre ton rêve, on va dire, perso.
Exactement. ça te parle?
Bah, il y a plusieurs choses qui me parlent. Déjà, je parle beaucoup hein, avec un préparateur mental qui s'appelle Pierre David.
Okay.
Et il travaille énormément sur une méthode justement sur la dépolarisation. Et qui, essentiellement, enfin, si je devais le vulgariser, le simplifier, mais ça serait... lui, il est très très bon pour t'enlever des croyances limitantes que tu peux avoir. Et typiquement, je lui disais, mais c'est quoi les croyances limitantes que les athlètes ils ont le plus? Et il y en a deux qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est je n'aime pas être égoïste. Les champions sont égoïstes et en fait, j'aimerais rester altruiste tout en étant champion. Et souvent, bah, c'est un truc qui t'empêche d'avancer, en tout cas c'est ce que lui remarque, tu vois. Et deuxième chose, c'est l'arrogance. Et c'est exactement la même chose, c'est je préférerais être un champion humble. J'observe des champions arrogants, j'autorise pas la part de ce que je considère comme arrogant s'exprimer, tu vois. En gros, tout le cœur de sa méthode, en fait, c'est de te faire retourner le prisme et qu'en fait, et c'est exactement ce que tu disais en fait, tes parents te demandaient, tiens, là on a un gros projet cette année, on aimerait rénover l'appartement, est-ce que au lieu d'aller courir 5 heures, tu pourrais aller courir 10 heures le dimanche pour qu'on ait du temps à rénover l'appartement, et ben comment est-ce que tu le prendrais, tu vois? Et tu vois, et toute sa méthode, c'est toujours essayer de voir sous un angle différent, sous un prisme différent, et en fait de toujours considérer que il y a ton interprétation à toi, il y a l'interprétation des autres, et enfin c'est moi ça a été game changer pour moi de lire ses bouquins, de bosser un peu avec lui parce que ça marche super bien. Et notamment il y a un des exercices super simples que tu peux faire, c'est tu prends je fais des demandes pour courir plus à mes parents par exemple. Où je suis plus individualiste, tu vois. Peut-être le plus avec une situation particulière, c'est bien. Et tu vas mettre les avantages pour toi, les inconvénients pour toi à cette situation, les avantages pour eux, les inconvénients pour eux à cette situation-là. Et en fait, le fait de voir qu'il y a aussi beaucoup d'avantages pour eux, c'est hyper intéressant. Et après, tu prends la situation exactement inverse. Tu vois, genre, je me prive de mon entraînement le dimanche et je suis là à l'heure. Et là, tu refais la même chose, tu recoupes ta feuille en quatre. Quel est l'avantage pour moi? Quel est le désavantage pour moi? Quel est l'avantage pour eux? Quel est le désavantage pour eux? Et tu vas te rendre compte que, bah, dans les désavantages, par exemple, pour eux, il y a, la tristesse d'avoir privé leur enfant de vivre son rêve, quoi, ouais. Tu vois. Et ça, pour des parents, c'est genre huge, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tout n'est un peu que supposition et que tu fais plein de, voilà, tu tires plein de pans sur la comète et que si, en fait, t'as sous les yeux tous les prismes, et tu vois, là, en l'occurrence, on a fait 8 à chaque fois, bah, ça te fait un peu relativiser et que quand après, t'abordes le dialogue avec ces gens-là et que ils te font surligner, en fait, les points, mais en fait généralement c'est que des points la somme des points positifs pour toi et positifs pour eux, elle est vraiment avantageuse, quoi. Donc je t'encourage, si tu veux, je t'enverrai les coordonnées de son bouquin. Est vraiment cool.
Avec grand plaisir, merci, franchement c'est hyper hyper éclairant et c'est ce que je te disais, tu vas me demander ma carte vitale à la fin du podcast. Non. Parce que je connaissais pas cette matrice et comme tu dis, avec un cas concret, elle est complètement ouais, avec un cas concret, tu la mets dedans et t'as vite fait de placer tous les avantages et inconvénients. Et c'est sûr qu'en fait, au final, maintenant, avec le recul, j'ai bien fait de faire ça. Et ce qui m'a fait prendre conscience que j'ai bien fait de faire ça. Enfin, en fait, maintenant, je le lis moins parce que il faut, je pense, la performance déclic qui, toi, te légitime auprès de toi de dire, OK, je suis légitime de faire, je me sens légitime de faire ça parce que ça vaut le coup. Parce que j'ai les moyens d'atteindre mes rêves, en fait. Et tant que tu l'as pas réalisé et que tu courras après, tu vis dans cette espèce de déséquilibre où tu as l'impression de demander plus et d'exiger plus que ce que tu mérites ou que ce que tu donnes. Globalement, vrai, il s'entraîne comme un champion, mais où il fait chier comme un champion. Mais il a pas du tout le enfin il se prend pour qui quoi, il se prend pour un autre, et ça c'est ouais, c'est, je pense qu'il faut la perf. Et une fois que je l'ai faite, c'était en 2022, c'est à la Transonde Canaria. Depuis je vis un apaisement qui est, en fait depuis j'ai pas raté globalement une course à ma mesure, hein, par rapport aux objectifs que je me suis fixé. Je n'ai gagné très peu, mais moi en tout cas je considère avoir réussi toutes mes courses depuis ce moment là parce que j'y vais apaisé et aligné avec mon objectif.
Ok. Est-ce que c'est parce que t'estimes, je regarde l'heure pour être 18h41, t'estimes du coup que les résultats ont été à la hauteur de tous les sacrifices que t'as pu demander à toi et aux autres, c'est ça? Et que du coup c'est, tu te sens plus légitime de, d'imposer plus ou moins un peu ton rythme de vie et de faire des demandes aux autres parce que t'as eu un résultat et qu'avant t'en avais pas et ça te semblait illégitime, quoi.
Il y a de ça, donc je me sens plus légitime à être individualiste sur certaines choses, mais aussi je me suis rendu compte que je pouvais rendre d'une manière différente. Donc du coup que globalement en fait cette petite part d'individualisme je le rendais sur un événement comme l'UTMB parce que ben je voyais ma famille qui se réunissait, mes grands-parents, des amis, tout ça, et qui en faisait une occasion de se réunir. Donc en fait ce que t'enlèves d'un côté tu le rends de l'autre, et ça je n'avais pas conscience avant. Et tu vois, quand ça se passe bien, ça crée une certaine forme d'émulation et de joie collective qui, je pense, vaut largement ces petits moments. Et tu vois, mes parents, mon père, il m'a dit un truc. Moi, je suis très très proche de mon père, et il m'a dit un truc. Il m'a dit, t'es un peu solaire avec les autres, t'es un peu lunaire avec nous. et c'est un peu vrai. J'en ai conscience. J'aime être enthousiaste avec les gens et bienveillant, mais c'est vrai qu'à mes parents, je leur réserve souvent la part un peu de spleen, de doute, de la lune, quoi. Et il m'a dit ça la semaine dernière, ça m'a fait un peu écho, et je me suis dit, putain, non, en fait, je veux aussi qu'ils profitent de cette part solaire, et ça, c'est une... je pense que là, je vais écrire un nouveau chapitre, enfin, je me projette sur un nouveau chapitre, et ça va être une de mes... préoccupation numéro un, tu vois.
Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je fais un parallèle avec moi. Moi, c'est ma petite amie qui m'a dit ça, tu vois. non, parce que tu vois, elle me dit oui, tu vois, les réseaux, les gens qui te connaissent, ils voient l'entrepreneur, ils voient, alors je suis pas un athlète de haut niveau, tu vois, mais je m'entraîne quotidiennement, donc il y a quand même, ça dégage, tu vois, ça, une certaine confiance en soi, une certaine, un certain charisme. Et effectivement, je peux montrer beaucoup plus vulnérable avec elle. Et c'est une de mes réflexions sur l'amour justement en ce moment, c'est de me dire que l'amour, alors pas forcément l'amour, tu vois, que tu partages avec une unique personne, ça peut être l'amour paternel, l'amour fraternel et tout. Je trouve que c'est cette capacité à se montrer vulnérable finalement.
T'as carrément raison.
Pour moi, ouais, tu peux avoir des très très bons amis, ou mais si t'es pas capable peut-être de, je sais pas, de pleurer devant eux ou de leur avouer, écoute, là en ce moment je suis dans le dur, cette course j'y crois pas, je sais pas si je vais y arriver, ou tiens, ce projet de boîte, je panique, j'endors pas bien la nuit, tu vois, enfin j'en sais rien, mais j'ai l'impression que la relation elle est beaucoup moins profonde, tu vois. Et c'est vrai que pour du coup l'entourage proche, des fois il y a un décalage, exactement, comme l'a fait remarquer ton père.
Ouais. Et moi, je l'avais pas du tout identifié, et c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est vrai, en fait. Je l'appelle que quand j'ai des problèmes.
C'est fou, hein.
Ouais. Et ouais, c'est, je sais pas.
Non, mais c'est un phénomène assez naturel. Et puis de toute façon, il faut des moments de doute aussi pour derrière se construire. Mais hyper intéressant. En tout cas, cette notion sur l'individualisme, je t'ai un peu poussé dans tes retranchements là, mais
non.
Je regrette pas de l'avoir fait.
Moi, il y a un sujet après que j'aimerais bien aussi aborder. Alors, je sais pas si on le mettra comme ça tel quel brut dans le podcast, mais j'ai fait du chemin et j'ai envie d'en parler, tu vois. C'est un peu globalement comment je suis venu au trail.
Ouais.
Et parce que j'ai Ouais. Je sais pas, j'ai besoin d'en parler parce que ça y est, j'ai conscientisé un peu le truc, tu vois, et que je pense que maintenant je peux en pas, enfin, j'ai fait le chemin et j'ai envie de communiquer dessus, donc je sais pas si ça viendra naturellement.
Mais
voilà.
Ce que je te propose, comme on a fait les choses un peu à l'envers, c'est moi qui te l'ai proposé. J'avais une dernière question sur ça, c'était est-ce que t'avais pris des risques? Et après, ce que je te propose, une fois que tu m'as dit sur les risques, on repart sur le chemin naturel de extraterrestre normalement, qui est quel est ton premier souvenir de sport, et on fait tout le chemin de là jusqu'à ta découverte du trail.
Okay.
Ça te va comme
c'est parfait.
Reverse podcast.
Parfait. Trop bien.
Vas-y. Du coup, la question que j'avais notée, c'était pour donner un peu d'éléments de contexte, tu vois, on l'a vu. Là, t'as fait deux très belles saisons. Pour un trailer, alors le trail, c'est aussi rajeuni, il a aussi vieilli. Les limites, en tout cas, s'agrandissent. Et on voit que c'est un sport en fait qui est finalement réservé à beaucoup de gens. T'es arrivé sur le tard, donc on va effectivement parler de comment est-ce que t'en es venu. Mais t'es arrivé vite d'une certaine façon. Tu vas me dire aussi qu'il y a eu des moments un peu compliqués, mais j'avais envie de parler de cette notion de risque parce que je me suis dit, t'as dû en prendre sur certains aspects de ta vie, sur certaines décisions. Et j'aimerais savoir, avec le recul là, quelles ont été un peu les décisions sur lesquelles t'as eu beaucoup d'incertitudes et les décisions qui t'ont paru risquées et aujourd'hui qui selon toi ont payé, tu vois. Parce que finalement je trouve que quand on étudie un peu le succès, je pense que c'est un des trucs qu'on étudie le moins en fait, c'est la prise de décision et la prise de risque. Et je me suis dit tiens, Baptiste il parle bien, il a peut-être médité la question en fait.
Mais c'est marrant que tu parles de prise de risque parce que moi, je considère que c'est.
Tu m'as parlé de prudence tout à l'heure.
Bah ouais. Je considère que c'est ma plus grande qualité. Et c'est aussi mon plus grand défaut. C'est la prudence. Genre, tu me verras jamais, moi, j'y vais vraiment pas à pas, tu vois.
Okay.
Et en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais pris de risque globalement et de toujours, avoir été dans un contrôle ou peut-être pas une maîtrise, enfin peut-être pas un contrôle mais une maîtrise de la du risque que je prenais en intellectualisant pas mal la prise de décision. Du coup je suis très mauvais pour faire des choix, enfin tu vois, et moi j'ai jamais eu l'impression de prendre des risques, c'est qu'à chaque fois ça s'est fait vraiment mètre après mètre. Et du coup en fait comme ça se fait mètre après mètre, bah la prise de risque je la trouve minimale. La seule peut-être prise de risque que j'ai faite et aujourd'hui dont je suis assez fier, c'est à l'issue de la CCC 2022, le sélectionneur de l'équipe de France, Adrien Séguré, il m'appelle et il me dit le premier français de la CCC, il est qualifié pour, il est sélectionné pour représenter l'équipe de France aux championnats du monde en Thaïlande, qui avait lieu 3 ou 4 mois après. Non, qui avait lieu, non, 2 mois et demi après. Et là en fait dans la même journée j'ai pleuré deux fois, pas pleuré mais j'ai eu des larmes dans les yeux, des larmes de joie, parce que moi mon rêve vraiment depuis que je suis tout petit c'est porter le maillot de l'équipe de France. Et dans la même journée j'ai changé de rêve et je me suis dit que mon rêve c'était de honorer le maillot de l'équipe de France, parce que j'aurais pu le porter et finir 35e aux mondiaux. Et donc là j'ai appelé mon coach Thomas, j'ai aussi appelé des amis, ma famille pour avoir des avis, mes colocs ils étaient là, c'est mes meilleurs conseils. Et en fait j'avais déjà fait 3 ultras dans l'année, la Transone Canaria, le Lavaredo et la CCC, et je me suis dit en fait si j'y vais je vais porter le maillot, je vais cocher une case mais je vais pas l'honorer parce que je suis cramé. Et là une fois que j'ai dit ça, j'ai rappelé le sélectionneur, je lui ai dit je pense que je serai pas à mon 100%. Et il m'a dit je te remercie d'être honnête et du coup je vais prendre quelqu'un d'autre. Et là j'ai eu l'impression mon rêve il avait toqué à la porte, je lui ai dit salut, est-ce que tu peux revenir bientôt s'il te plaît. Et à partir de là je me suis dit je vais tout faire pour parce que les mondiaux avaient été reportés, donc je savais que dans 8 mois j'avais une autre opportunité à Innsbruck, et j'ai tout fait pour être en gros globalement resélectionné, et avec une option, c'était d'être champion de France. Et en fait, ça s'est passé comme dans un rêve, c'est arrivé, et en fait la prise de risque elle a été payante, et en fait ça, plutôt que de porter le maillot en octobre 2022, bah en fait je suis devenu champion de France en mars, un truc, enfin pour moi à mon niveau qui était totalement inattendu et inaccessible, et en plus après j'ai honoré le, enfin j'ai vraiment pu honorer le maillot parce que j'ai dans les meilleures dispositions, j'ai fait une prépa, et quand je regarde dans le rétro, je suis hyper en phase avec le, ce que j'ai fait, quoi. Donc ça c'était la, c'est le seul risque que j'ai pris, je trouve, et le reste globalement c'était que une succession de, de choix très calculés. Voilà.
Ok. Ouais, t'as un rêve et t'y vas vraiment doucement, quoi. Après, pas à pas.
Ouais. Et puis le rêve, il évolue vachement, en fait. J'ai un cap, on va dire. Mais globalement, et des rêves, mais ils sont hyper fluctuants. Avant, j'avais des rêves vraiment liés aux résultats. Et maintenant, j'ai plus des rêves de, qui sont liés à la manière. Donc c'est plus seulement des performances ou des lignes sur le palmarès, c'est aussi plutôt laissé à la façon dont je vais le faire, et lié à la façon dont je vais le faire, et aussi même d'autres projets ailleurs, pour dire comment je peux me rendre utile par rapport aux performances en trail, enfin comment faire de ces performances non plus une finalité mais un moyen pour d'autres choses.
Ok, bah écoute, merci beaucoup de partager ça. Ça c'est très clair, et je trouve c'est marrant que ta prise de risque ça soit un non, tu vois, la fermeture à un rêve
un non s'il te plaît.
Non mais c'est ça, tu vois, c'est tiens, là j'étais déjà en train de vivre un rêve, j'ai juste postponé le prochain rêve. C'était le plus gros risque de l'année. Mathieu Chassagne, merci. Merci, au revoir. Non mais super chouette, mais ce qui est cool, en tout cas, c'est que ça permet de beaucoup mettre en lumière une partie de ta personnalité. Tu l'as mentionné sur la prudence, et là ça te faisait exprimer avec d'autres mots, quoi.
Il y a une autre prise de risque très très succinctement, c'est aussi faire confiance. Je pense que j'accorde facilement ma confiance à l'instinct, en fait, et du coup moi j'ai pas l'impression de prendre un risque, et puis certains diront mais t'es fou de parler avec autant de transparence à quelqu'un, ou d'aller aussi verticalement, aussi vite dans une relation avec quelqu'un. Mais en fait ça, peut-être c'est une prise de risque, mais moi j'ai pas l'impression, quoi.
Ok, voilà. Et t'as un bon instinct, ou t'as déjà eu des déconvenus?
Bon, on va voir dans 3 minutes. Je fais l'art du teasing. Non, normalement j'ai un bon instinct.
Ok. Bon, ben on redémarre cet épisode.
Ouais.
On vous dit
on rétro-pédale.
Une heure 24. Et ben salut Baptiste.
Salut.
Salut Marc. Je sais pas dans quel ordre vraiment je vais mettre cet épisode. On verra comment on fait. Mais écoute, si t'as écouté quelques épisodes d'Extraterrien, tu connais la première question. Je vais quand même la dire, si jamais il y a des auditeurs qui arrivent là parce qu'ils te suivent et qui ne connaissent pas Extraterrien. Mais la première question que je pose à tous les athlètes et tous les invités, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, c'est moi attendant derrière la porte du petit pavillon résidentiel dans lequel on vivait dans la banlieue très proche de Lyon, où donc je suis derrière cette porte, je dois avoir 3-4 ans, et j'attends que mon père rentre du taf avec 2 éditions de l'équipe du jour. Parce qu'en fait, il aimait pas qu'on lise le journal avant lui. Tu vois, le papier journal, il a un petit peu cette matière quand il a été élu une fois. Il est un peu plus froissé. Enfin, tu vois, il a pas ce côté un peu exclusif. Enfin, il a pas la même magie. Et donc, il revient du taf avec ses 2 exemplaires de l'équipe, un pour lui et un pour moi. Et il oubliait rarement, mais s'il oubliait, tu vois, c'était pas.
Okay.
Ça se passait un peu mal. Et donc, c'est pas vraiment un souvenir. Sportif. Après, le premier qui m'a vraiment marqué, c'est la Coupe du Monde 98, la victoire, et tout l'aspect black blamber qui, enfin tu vois l'aspect, le message de tolérance, de la joie collective qui est née derrière, et cet aspect l'amour grandeur nature, enfin, tu vois, énorme, la vague de je sais pas comment dire, mais la vague collective de bienveillance entre les gens. Ça, c'est mon premier souvenir sportif, mais l'autre, c'est vraiment, moi, derrière cette porte, je la vois très bien, je la visualise très bien, et mon père qui rentre vers 18h, 18h30.
Ok. Mais d'où ça vient, en fait? C'était, tu sais pas?
Franchement, je sais pas, tu vois, j'ai une anecdote, j'ai déjà raconté, mais en gros, en moyenne section, je commençais à lire et à déchiffrer un petit peu, et la maîtresse, elle avait demandé, tu vois, à la fin de l'année, de ramener les livres un peu globalement qui nous plaisaient pour les partager avec les copains. Et moi, j'avais ramené l'équipe et j'étais allé poser au fond de la classe. Et je me rappelle d'ailleurs de l'article que c'était un article sur Manchester United. Enfin bref. Et en fait, je sais pas l'expliquer, mais en tout cas, j'avais une passion à la fois pour le sport, mais aussi pour les mots. Tu vois, l'objet, le journal, l'article,
les titres.
Ouais, les titres, trop fort. Apparemment, tu vois, le journal Libé, ils avaient un job, il y a un mec qui te donnait les titres de une, tu vois.
Chez l'équipe aussi, hein.
Ah ouais?
Ouais, il y a deux, on les appelle les titreurs.
Ah ouais.
Et je crois qu'à l'équipe, ils sont deux, ouais.
Ouais, wow, le job de rêve.
Et ils passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à chercher des titres, ouais.
Ah, trop fort. un job de rêve.
Ouais, mais ils ont un talent de ouf parce que il y a quand même certains jeux de mots qui sont très très bien trouvés, quoi. Ouais, et
puis il y a un enjeu commercial, donc faut pas non plus être perché.
Ouais, tu peux pas aller trop trop loin, ouais.
Non.
Bah, c'est vrai que, ouais, ils ont pas cette liberté, où des fois ils pourraient aller chercher des trucs vraiment, vraiment, je pense, très puissants. Mais ils arrivent quand même à faire des super, c'est le job de rêve. ok. Et ouais, il me semble que le petit Baptiste, il met des crampons, jeune.
Exactement. Il grandit dans un vestiaire.
Ok.
Ouais. C'est important. Alors, il grandit dans un chaudron, déjà. À l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, mon père qui était, donc, il est stéphanois, mais il a emménagé sur Lyon pour le boulot. Et il était passionné de synthé à fond. Et à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, il m'emmène au stade. Le sandwich au saucisson en guise de carotte, tu vois, il fait ma taille, et donc du coup je passe les 90 minutes à le manger globalement, et lui il est content, il a un copain pour aller voir le match. Donc je grandis dans un chaudron, et puis je grandis dans un vestiaire, parce que dès que j'ai 3-4 ans, je commence à jouer au foot, je pense, et je joue au foot jusqu'à ma sortie des études, donc c'est-à-dire l'âge de 23-24. Et c'est hyper important parce que aujourd'hui, j'ai vraiment envie, tu vois, de... Alors, j'ai envie de mener ma carrière et j'ai cet individualisme, mais j'ai vraiment envie de rendre. Et il y a une cause qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est cet aspect-là, en fait, l'ouverture d'esprit. Enfin, moi, j'ai grandi dans un quartier... Je viens d'une famille aisée, mais j'ai grandi dans un quartier populaire, dans un vestiaire de foot. Ça me fait mal, tu vois, quand je vois des trucs un peu... lié au communautarisme, au racisme, ça me fait mal. Et en même temps, je me dis que c'est bien facile pour moi, qui suis né blond aux yeux bleus, tu vois, dans un pays comme la France, de ressentir ça. Donc c'est assez paradoxal, mais globalement, maintenant, je suis en paix avec ça, et j'ai envie vraiment de travailler là-dessus, et en fait, de m'impliquer sur ce genre de projet-là. Et on parlait, tu vois, du chamanisme qu'on peut avoir dans le trail, c'est-à-dire que quand tu dis que t'es parisien, genre t'es mal vu. Ou quand tu viens de la ville, t'es mal vu. Ben moi, en fait, ça me dérange. Je le vis mal, ça, parce que je trouve que c'est de l'intolérance. Et alors oui, il y a certains Parisiens, ils sont pas cool. Je te jure, il y a certains Chamoniards, ils sont pas cool non plus. Et du coup, voilà. Moi, j'ai grandi à la ville. Maintenant, je m'épanouis à la montagne et j'aimerais bien contribuer à être un trait d'union entre les deux.
Ouais. Voilà. Ok. C'est vachement beau ce que tu dis, en tout cas effectivement la découverte du foot via tu vois cet aspect très populaire, un sport qui rassemble tout le monde, ou et c'est vrai que il s'est passé une période, je trouve, peut-être que je le vois avec mes yeux d'enfant, mais où on
tape sur le foot.
Là en ce moment, ouais, on tape sur le foot, on tape sur le foot de ouf, mais tu vois, sur entre 98 et je sais pas jusqu'à peut-être 2002 où on déchante, ouais. Mais j'avais l'impression que c'était waouh, on avait trouvé la formule miracle pour que la France ça soit un pays apaisé, tu vois. Et qu'on ait plus de problèmes et que en fait
tout le monde s'aime.
Le racisme était un problème derrière nous et ouais. Que en fait on pouvait complètement passer au travers de ces mots-là, tu vois. Et en fait non, ça a pas suffi quoi. Et je comprends que tu aies été un peu que ça te mette en colère et moi aussi des fois ça me met un peu en colère parce que je considère que j'ai fait beaucoup d'efforts en tout cas de m'ouvrir, tu vois, à et de déconstruire des préjugés, tu vois, que tu peux avoir à la télé. Et moi ça me met en colère de voir que d'autres l'ont toujours pas fait quoi. Ouais. Tu vois, mais je comprends, enfin je partage beaucoup ton point de vue quoi.
Et du coup tu faut profiter d'une certaine manière de, c'est une manière de rendre et donc du coup de la visibilité dont on peut bénéficier aujourd'hui pour essayer de faire sa part. Alors moi j'ai conscience que c'est une petite part de colibri, tu vois, c'est pas grand chose, mais au moins je fais la mienne et si ouais. Ça peut enfin on peut faire la nôtre, tu vois, et c'est un peu ce que je me dis. Donc là ouais, c'est la dynamique dans laquelle je me trouve actuellement.
Ok. C'est quoi les rêves du petit Baptiste à l'école et au foot?
C'est marrant, même ça, ma mère, elle me l'a dit après l'UTMB, elle m'a dit, mais quand quand on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, là, t'avais marqué, je vais être un sportif. Enfin, en gros, globalement, je vais passer ma vie à faire du sport, quoi. Et, vivre cette vie-là. Sauf que très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau en foot, hein. J'étais très besogneux. J'étais un joueur de devoir, tu vois. Je courais beaucoup, mais j'étais pas très très bon techniquement. Et en fait, du coup, j'ai vite switché pour me dire, ben, mon rêve, ça va être d'accompagner les athlètes de haut niveau. De contribuer, en fait, à ça. Et donc, je me dédiais plutôt à bosser dans des institutions type CIO, type des clubs de foot, des marques de sport. Enfin voilà, je voulais vraiment bosser dans le sport pour contribuer à ce que le sport fasse des choses bien, tu vois. Soit un moyen plutôt qu'une simple finalité. Et voilà, et donc la démarche de haut niveau, je la mets plutôt dans les études au début. Parce que je pense que j'ai toujours eu une démarche de haut niveau. Genre, toujours été très compète, les notes, enfin ça me rendait fou quand les profs ils rendaient les notes trop tard et tout. Maintenant je suis pour qu'il y ait pas de notes à l'école, tu vois, mais moi c'était la compète quoi. Du coup j'avais des méthodes, je faisais bien mes devoirs, j'étais déjà dans je pense que le haut niveau c'est pas que dans le sport d'ailleurs, c'est un vrai sujet que j'ai avec un ami qui s'appelle Simon Duguay qui lui vise le haut niveau dans la création d'images. Je pense que le haut niveau tu peux le mettre dans tous les domaines de
bien sûr.
Et donc ça c'est une démarche au début qui m'a toujours animé. Et au début j'ai commencé dans les études en fait, voilà, en ayant ce rêve de vouloir bosser dans le sport.
T'as lu Atomic Habits?
Non.
De Sean Real?
Non. La liste des prescriptions elle va être longue.
Non, mais c'est en tout cas c'est un des bouquins moi que je vois quand je rencontre des entrepreneurs ou des créateurs de contenu, c'est un des livres qui revient vraiment vraiment le plus souvent. Okay. Donc je l'ai lu. C'est vraiment un best-seller américain, mais il a justement une vraie philosophie sur le haut niveau. En gros, il te dit, on n'est que la somme des habitudes, des actions qu'on est en fait, grosso modo, et que il te fait toujours comprendre que l'objectif n'est pas de courir un marathon, mais de devenir un coureur, tu vois. Et là-dedans, en fait, il exprime en fait que l'excellence et l'expression du plein potentiel, elle passe par des micros habitudes et que c'est exactement la même chose que tu veuilles devenir athlète de haut niveau ou entrepreneur ou juste être un bon père ou un bon amant, tu vois, je sais pas, mais et du coup il y a vraiment une méthodologie quoi de création d'habitudes, de suppression d'habitudes, de fixation d'objectifs qui est hyper pertinent. C'est pour ça que je voulais te demander.
Mais il faut que je lise du coup, je pense.
Mais tu te le fais en audiobook et prochaine sortie, c'est 5 heures d'audiobook. Okay. Donc ça tu te le fais en une seule.
OK.
À quel moment tu tu oublies un petit peu ce rêve de footballeur, du coup, pour le rapatrier dans autre chose?
Bon, assez rapidement, parce que je me rends compte que j'ai pas le niveau pour devenir footballeur professionnel, mais que dans les études, je suis pas trop mal et que du coup, je peux potentiellement devenir un grand journaliste à l'équipe, chez SoFoot, tu vois, devenir pas président, mais bosser au club de Saint-Étienne. Donc, assez rapidement, je garde le foot parce que c'est vraiment ma passion, c'est là où je me sens bien, et puis c'est là aussi où je sens que je grandis énormément. Genre là, le foot, c'est une école de la vie, tu vois. Et du coup, je sens ça, et donc je me dis, bon, je vais prolonger là-dedans. À un niveau, je suis dans une démarche de perf, tu vois, je m'entraîne 3-4 fois par semaine, j'ai mon match le week-end, mais à côté de ça, je me dis, ok, bon, bah, je vais pousser dans les études à côté. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que la course à pied, elle rentre un peu dans ma vie, tu vois.
Tu te souviens de ton premier contact avec la course?
Ouais, je me souviens. C'est là où tu vois, j'ai une petite palpitation au cœur parce que, en gros, je l'ai jamais conscientisé, tu vois, pourquoi je me suis mis au trail. Mais, en fait, comme je te disais, moi, je viens d'un famille aisée, quartier populaire. Et du coup, je grandis dans un collège où il y avait un peu de violence parfois. En fait, j'essaye de bien raconter la chose pour pas que ça, surtout je voudrais pas l'enjoliver ou que ça soit du storytelling, tu vois, juste la livre brute, parce que c'est aujourd'hui, j'ai envie de me confier et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que je cours aussi longtemps et que je pense que j'ai des qualités de résilience. Donc je suis en troisième globalement et je suis le petit caméléon social, tu vois. Genre, je suis bien avec les caïds du collège, parce que je suis le petit gars qui est pas trop con, mais qui fait un peu des conneries, tu vois. Et en même temps, quand je suis dans des milieux plus tranquilles, bah, je suis un peu le gars qui joue au foot, et je dirais pas une street cred, tu vois, mais globalement, tu vois, en gros, je me sens bien dans les deux milieux. Et je pense qu'un jour, je joue un peu trop avec le feu. Et pour une histoire de fille, tu vois, à la sortie du collège, il y a un gars avec qui je pensais plutôt pote, avec qui j'avais fait une vanne. J'adore chambrer. J'étais en troisième, tu vois. J'ai sauté une classe, donc je pense que j'ai dû avoir 12 ou 13 ans, je sais plus. Et qui me chope à la sortie du lycée, à la sortie du collège, tu vois. Et en mode bagarre ritualisée, tu vois. Genre en mode... ouais, tu m'as manqué de respect. Bref. En gros,
Oui, il appelle des spectateurs, peut-être. Il faut
c'est
que
ça, il dit ça avec tous ses potes. Faut que ça soit scénarisé. C'est sur un parking juste à côté du collège, tu vois. Puis, encore une fois, c'est un quartier, tu vois, qui est assez populaire. Donc, c'est violent. Et physiquement, il me fait pas mal, tu vois. Mais, en fait, mentalement, je me sens extrêmement lâche parce que je me défends pas. Et en fait, je me sens... j'ai un pote qui me tire de là et tout. Et en fait, je repars de là, je me sens souillé, tu vois. Et je me sens... je me sens lâche de ouf. De pas avoir eu le courage, tu vois, de répondre, de m'être laissé faire. Et en fait, depuis... Suite à ça, bon, je retournais au collège, c'était février. Et franchement, je verse dans la parano parce que j'ai peur. J'ai peur et j'ai plus envie d'y retourner. J'ose pas trop en parler à mes parents parce que j'ai honte. J'en parle à personne. Et je vis avec cette peur de que ça... Et même, je rentre dans la paranoïa, tu vois. Et c'est horrible. La fin, horrible. Ah non, je vais pas dramatiser le truc, mais c'est pas agréable la fin du collège. Et du coup, je change mes parents déménagent. Enfin, ça se coïncide parfaitement et on va dans un quartier un peu plus tranquille à Lyon. Et je me retrouve dans un lycée à l'opposé, genre un lycée très très tradi, à fond sur la performance et les notes. Et là, pareil, je me sens pas à l'aise. Et en terminale, je fais une pendant un an, en gros, globalement, j'ai un trouble du comportement alimentaire, tu vois. Je fais une anorexie, ce qui est rare, tu vois, chez les garçons, chez les hommes, parce que je l'avais pas identifié, mais maintenant, de plus en plus, je l'identifie, parce qu'en fait, j'ai envie de punir mon corps, tu vois. Pas être capable de me défendre, d'avoir été lâche, de me dire, mais comment t'as pu te laisser faire et du coup, je pense que je veux le punir. Et donc, je fais ça. Moi aussi, il y a certainement à une, tu vois, il y a aussi, je pense, pas mal d'ego, de, t'as envie de plaire, et je sais pas trop où ça se situe, le pourquoi j'ai cette maladie. Et pendant 6 mois, 1 an, j'ai ça. Donc, j'ai un parcours à deux, au terminal un peu, je suis pas trop en cours, mais tu vois, mon frère dont je suis très proche, on a 1 an et demi d'écart, il est pas trop au courant, mes parents sont au courant, je fais des rendez-vous chez le médecin, et en fait, il me dit, bah, en vrai, si ça continue, on va être obligé de t'interner, quoi. Et c'est difficile parce que, tu vois, mon père, il comprend pas. Il me dit, mais en vrai, demain, si tu veux, c'est pas une maladie. Demain, t'es résolu, tu remanges, c'est bon. Et en fait, il y a un décalage. Ma mère, elle est médecin, donc elle comprend un peu plus de tact là-dessus. Donc, ça va vraiment au clash. C'est un moment un peu dur. Et en fait, c'est là où je découvre la course à pied. Et au début, la course à pied, c'était un peu c'était mon refuge, mon moment à moi, mais en même temps c'était aussi un moyen de reprendre possession de mon corps et de reprendre du poids, tu vois, d'une façon contrôlée. Donc c'est à la fois une thérapie, mais aussi un moyen de détourner, de passer à un stade un peu plus contrôlé de la maladie, tu vois.
Et pourquoi en fait, parce que tu retrouves l'appétit, qu'est-ce que...
Bah non, mais quand tu cours globalement, tu sais que tu t'affûtes, quoi. Tu perds un peu du poids et donc du coup tu dis bon, ok, je remange, mais dans la mesure de ce que j'ai perdu avant en faisant un effort sportif. Et l'idée en fait c'est de se mentir un peu et que la balance de ce que tu remanges soit un peu supérieure pour pouvoir reprendre du poids et du coup là c'est vachement hormonal. Tu reprends un peu du poids, t'es en meilleure forme, tu vois les choses de manière plus positive. Et d'une certaine manière en fait, tu vois maintenant. Avec le recul, après, suite à ça, finalement, j'ai mon bac, je change de lycée, je vais en terminale, dans une autre terminale L, j'ai un très bon bac, je rentre à Sciences Po à Paris, et en fait, tout va mieux, en fait, tu vois.
Ça va mieux.
Et la courbe s'est inversée. Mais en fait, c'est parce qu'il y a la course à pied, en gros, à côté, qui permet à chaque fois de, au début, vraiment, il y a une reprise de poids, et en fait, après, juste un équilibre mental. Et en fait, j'ai jamais dit, parce que je n'avais pas conscience, mais je pense qu'il y a une part, tu vois, de violence en moi qui est liée à ça, à ce moment-là où j'ai pas su être courageux. Et du coup, maintenant, quand je souffre, je m'interdis d'être lâche et de lâcher. Et aussi le fait que j'ai un amour profond de la course à pied, où j'ai envie de rendre, parce qu'en fait, c'est grâce à ça que je m'en suis sorti. Et je me dis, en fait, j'ai une bonne étoile, tu vois. Une bonne étoile avec des baskets. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai envie de rendre, en fait. La course à pied, c'est une dinguerie, quoi.
C'est fou.
C'est très puissant. Et voilà.
Mais déjà, merci infiniment de me partager tout ça, tu vois. Je sais à quel point c'est pas facile, tu vois, de s'ouvrir sur des douleurs qu'on a vécues dans notre enfance. Je vois aussi beaucoup de gens, tu vois, autour de moi qui n'osent pas ouvrir cette boîte. Donc j'ai en même temps aussi j'ai envie de te féliciter parce que t'as réussi à ouvrir cette boîte qui fait ressortir beaucoup d'émotions. Mais en même temps qui te permet de toi de trouver des solutions et de mieux te comprendre et puis peut-être que là ça aidera peut-être tu vois certaines personnes qui nous écoutent qui ont eu des troubles tu vois du comportement alimentaire ou qui ont ressenti une certaine forme de lâcheté de honte suite à des moments dans leur enfance tu vois
Et c'est exactement pour ça, tu vois, que je le communique, parce qu'avant, je me disais, ouais, déjà, pourquoi t'en parles, en vrai? Enfin, garde-le pour toi, ça sert à rien d'en parler. Mmh. Et puis après, je me suis dit, putain, en plus, ça va être, enfin, tu vois, moi, je bosse dans la com, je veux dire, c'est, ouais, on va croire que t'en fais un moyen de storytelling. Puis après, je me suis dit, en vrai, tu sens que c'est le bon moment de le faire. Je me sens en confiance pour le faire. Et c'est surtout le message que je veux faire passer. Et le, aussi le cap de la démarche que j'ai, c'est aussi, j'ai envie de faire du bien, tu vois, avec la course à pied autour de moi. Et je pense que ça vient de là.
Ouais. Et en vrai, enfin, il y a pas de storytelling, tu vois, il y a que des, c'est que ton histoire, en fait. Ouais.
Mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont dans le, il est pas les gens qui se plaignent, mais je, ouais, si, en fait, c'est ça. J'aime pas quand on se plaint, ou quand on est dans le, tu vois, dans le misérabilisme un peu, ou le côté un peu larmoyant, j'aime bien quand on, ok, c'est dur, mais ok, on va avancer. Et j'ai toujours, et ça, c'est un, je manque parfois un peu de tolérance là-dessus, parce que moi, quand j'ai un problème, j'avance et j'essaye de le résoudre. Et
la preuve.
Mes proches, ils me disent, mais t'es intransigeant avec toi-même, et t'es un peu intransigeant avec les autres aussi. Parfois, je pense que les gens qui se plaignent, ça me saoule un peu trop vite, alors que je devrais plutôt leur tendre la main. Donc, je travaille vachement là-dessus aussi. Et c'est pour ça que je voulais pas le. Pendant longtemps, j'ai refusé de l'assumer, parce que je voulais pas être le mec qui se plaint. Alors que maintenant, je me rends compte que je peux en faire une histoire. Tu vois, là, on a des écoles juste à côté, là. Et on est dans un quartier, on a la Guillotière à Lyon, c'est un quartier qui est populaire. Et c'est hyper métissé. Et je suis sûr qu'il y a des petits gars comme moi qui vivent exactement la même chose que j'ai vécu. Et en fait, tu vois, quand je le vois, je me dis juste, putain, mais en fait, s'ils pouvaient... juste les gars, ces petits gars s'aimer, tu vois, et qu'il n'y ait pas de vie, enfin, et du coup, ça me donne envie d'être plus acteur et de dire, ok, si je vais passer le message juste dans 2, 3, 4 endroits, c'est pas énorme, mais au moins c'est déjà ça. Et voilà, c'est pourquoi je le fais un peu aujourd'hui et avec toi.
Ben écoute, merci, merci beaucoup de t'être confié. C'est fou à quel point les enfants sont durs.
Tout. On est trop bêtes.
On est trop innocents et tout. Et on dit qu'il y a rien de plus beau qu'un enfant, la naïveté des enfants et tout. Et en fait, de l'autre côté, on est aussi hyper
vulnérable.
Ouais, il y a vulnérable, mais aussi parfois violent de l'autre côté, quoi, sans s'en rendre compte. À quel point on peut se blesser les uns les autres. Et
moi, je pense que j'ai des blessés, tu vois, en chambrant, en étant un peu innocent, je pense que j'ai blessé aussi d'autres enfants par rapport à... Donc ouais.
T'as raison. Et on se laisse franchement, on se laisse des cicatrices des fois, quoi. Parce que c'est fou. Comment tu te sens aujourd'hui avec ton corps?
Moi, je me sens bien, parce que bon, tu vois, l'image qui me vient, c'est après l'UTMB, enfin même globalement toutes les courses où ça se passe bien, mon premier réflexe à 500 mètres de la ligne d'arrivée, c'est que je l'embrasse comme ça, vraiment, mais genre en mode pour le dire, mais gros, merci de me permettre de vivre ça, t'es incroyable. Et du coup, c'est une gratitude, et de plus en plus. Du coup, c'est bizarre, parce que je le considère un peu plus comme une personne à part. Et du coup, j'ai tendance à vouloir y faire, en prendre soin. Vraiment. Mais en même temps, je le conscientise un petit peu plus et je l'écoute plus. Donc, c'est un peu, globalement, je le respecte plus, quoi. Et je le considère plus. Et, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Après, t'as toujours des petites réminiscences. Mais, parce que je pense que tu guéris jamais vraiment de ça. Parce que globalement, t'as un rapport à l'alimentation qui restera, cérébral.
Ok.
Mais ça va vraiment, vraiment mieux, quoi. Donc, c'est plus que des petits, des, petites cendres, tu vois. C'est vachement.
Mais félicitations déjà, tu vois, pour tout ce chemin parcouru. Je voulais, t'as légèrement abordé la question, mais justement, je voulais te poser la question parce que moi, j'ai souffert deux fois de dépression dans ma vie, où j'ai fait des grosses phases dépressives qui ont duré plusieurs mois, vraiment, vraiment très intenses, dont une, la sortie de l'une a été, tu vois, hyper vertueuse pour moi, parce que ça a été le lancement de Extraterrien, tu vois. Et depuis, je suis sur une pente ascendante comme j'aurais jamais pu l'être avant. Mais effectivement, ça fait toujours un peu partie de moi. C'est toujours un peu là. Ça m'est arrivé une fois cet été. Je me suis levé un matin, je comprenais pas. J'étais juste pas bien. J'avais juste envie de pleurer. Il y avait pas vraiment de raison qui expliquait ça, tu vois. Enfin, je me suis rendu compte que s'il y avait pas mal de choses, c'est que j'avais pas couru, pas médité, pas vu mes amis pendant 3 jours d'affilée, tu vois. Et c'est vraiment des piliers du bonheur qui sont aujourd'hui importants. Mais moi, en tout cas, j'essaye de m'imposer en tout cas une rigueur du bonheur maintenant qui est tous les jours, je dois méditer, tous les jours, je dois faire un peu de sport, tous les jours, je dois me répéter des paroles positives, tous les jours, je dois me regarder dans la glace et me dire que je suis heureux, que je suis quelqu'un de génial et unique. Ça fait beaucoup rire les autres, surtout ceux qui me connaissent, enfin ceux qui me connaissent depuis peu. Est-ce que toi t'as des habitudes sécurisantes comme ça pour tu vois, enfin juste aller mieux, enfin ou juste aller bien quoi, qui peuvent être liés justement un peu à ce que t'as vécu avant.
Ouais, je pense qu'il y en a une qui est très importante, c'est la musique. Moi, je suis passionné de musique électronique depuis que je suis globalement tout petit. Ouais, peut-être ça date du collège avec mon frère, on a une passion commune. Et globalement, je vais certains pourraient considérer que je vais en teuf, tu vois, genre c'est des concerts de musique électronique. Moi, je regarde la progra, j'écoute tout ce qu'a fait l'artiste. Je lis sa biographie, tu vois, je me renseigne vraiment et après je vais l'écouter. Et ça, donc il y a un lieu à Lyon qui s'appelle Le Sucre, qui a été créé il y a une bonne dizaine d'années. Ouais. Et c'est mon jardin secret. Et souvent, régulièrement, je trouve pas de copains pour m'accompagner parce que, tu vois, moi j'aime bien y aller le dimanche. Je me fais ma grosse séance du dimanche, une grosse journée. Puis après, à 19h, je vais boire une bière. Je bois une bière et je vais dans le son jusqu'à minuit. Tu vois, ça finit pas trop tard. Et je trouve pas tout le temps du monde pour m'accompagner. Et en vrai, j'y vais tout seul, ça me dérange pas. Et en fait, je m'abandonne globalement. Je rentre dans ce lieu-là, cette porte, et je suis pas qui je veux. C'est pas dire que je suis pas quelqu'un, je suis pas qui je veux dehors, mais je pense plus à rien et je suis juste dans la musique et je me mets tout le temps au même endroit, devant à droite et je kiffe et je pense à rien d'autre. Ça, c'est... Je ressors de là, je suis trop bien parce qu'en fait, je me dis, quoi qu'il arrive, j'ai un truc tout simple, mais c'est tout simple. À part s'il ferme, mais j'en trouverai un autre, c'est pas bien grave, qui me rend heureux de ouf. Il suffit que je me mette devant une enceinte avec des gens qui dansent, qui a une bonne vibe. Puis tu vois, c'est un milieu aussi qui est vachement ouvert. Qui est vachement tolérant et ça je pense que c'est important. Enfin, tu vois, t'as quand même c'est quand même vachement porté sur l'inclusion, sur l'ouverture, enfin bref. Et du coup il y a une vibe qui est trop bien et je ressors de là, je suis ensoleillé quoi. Et ça c'est ma routine du bonheur. Okay. Et quand j'y vais pas pendant longtemps, je ressens le besoin d'y aller quoi.
Trop bien.
Ouais. Tu viendras si tu veux.
Grave. Grave.
Bah ouais.
Même j'écoute beaucoup de musique électro.
Ok.
Moi, je pense que le premier artiste, alors ça remonte, hein, je pense que ça remonte il y a une dizaine d'années, mais le premier artiste qui m'a vraiment fait voyager, il y avait Joris Delacroix.
Ouais. Ouais, bien, ouais.
C'est un ancien.
Je pense que t'as toute la French Touch, un peu, genre, tout ce qui était justice, non.
C'est... Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je les ai vus, tu vois, encore il y a un an et demi.
Ouais.
L'année dernière, j'étais au Touquet, au festival du Touquet. Donc, il y avait Justice, il y avait, Rasputin, il y avait, ils étaient tous là, ouais. J'ai oublié les noms, tu vois. Mais moi j'aime les trucs très aériens, très
okay.
très léger, très mélodieux aussi, okay. beaucoup de mélodies. Mais j'ai voilà, j'ai vu des
bon, faudra bien que tu choisisses ta soirée parce que parfois là-bas c'est
ouais, des fois c'est je sais que le sucre ça tabasse des fois.
Ouais, c'est un peu agressif
mais moi je vais plutôt ouais, je vais être un gros fan de Laurent Garnier.
OK. C'est sa maison, ouais.
Nicolas Jarre, okay. Trop bien. Les vieux de la vieille, je les aime bien.
Donc, t'es ouais. déjà venu au Nuit Sonore?
Ouais, ouais, je l'ai fait une fois, mais ça remonte. Mais faudrait que je le refasse bientôt. Faudrait que je le refasse.
Ben, tu sais, moi, c'est une cérémonie familiale. Je sais pas, on a tous la passion avec mes cousins, cousines, on a tous la passion de la musique électronique et chaque année, on y va, quoi. C'est
trop bien.
Pour la Nuit Sonore, il y a le canapé, là, tout le monde squatte là. intense, matin, midi, soir. Et tu sais que je pense qu'aller en concert, comme ça, et d'avoir été passionné et de faire des nuits blanches, du coup, ça m'a vachement aidé pour la nuit, en fait, en ultra. Certains qui ont pas trop l'habitude, tu vois, d'être, ils ont envie de dormir, somnolence et tout. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là parce que je pense que la nuit, en fait, ça me plaît.
Ouais.
Et, j'ai appris à l'apprivoiser, tu vois.
Est-ce que tu t'es informé, là, sur ton chronotype ou pas?
Mon chronotype?
Tu sais, enfin, il y a une espèce de, je sais pas trop dans en quoi c'est vrai, mais
c'est mon chronotype à l'UTMB, c'est mon chrono idéal.
non, mais dans, tu vois, il y a toute une théorie sur les loups. Alors les loups, c'est ceux qui se réveillent la nuit, du coup ils sont un peu, ils ont un regain d'énergie dès que la nuit tombe. Il y a les ours. Alors les ours, c'est ceux qui vont dormir très 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 longtemps, tu vois. Puis t'as le lion, c'est celui qui se lève à 5h du mat,
c'est énorme,
qui se couche à 21h, et c'est vrai que tu remarques chez les gens qu'il y a un peu des frameworks qui reviennent, enfin des patterns. Et enfin t'as le dauphin, et le dauphin il peut dormir quand il veut n'importe où.
Toi t'es quoi, toi?
Je suis moitié loup, moitié dauphin.
Okay.
Moitié loup, moitié dauphin. Le problème du dauphin, c'est que souvent, tu peux avoir des troubles un peu du sommeil, quoi. Moi, c'est un peu ça. Mais moi, je kiffe la nuit, quoi. Enfin, c'est le moment où je suis plus productif au boulot et tout, quoi.
Ok.
Donc, je sais pas comment toi,
je suis mi-loup, mi-lion.
Ok.
Parce que j'aime bien la nuit, mais genre j'aime bien la nuit une journée par semaine. Et le reste de la semaine, c'est un peu comme, tu sais, les régimes minceurs, tu sais, t'as un peu un cheat meal. Bah moi je suis carré globalement toute la semaine et j'ai ma petite nuit je sais pas comment dire, mais libre.
Ouais, voilà. Ok.
Je suis désolé, je regarde un petit peu je pourrais vraiment pas être
vas-y, et ben écoute, on se fait toute dernière question. Est-ce que je regarde on va terminer sur une note un peu du futur.
Vas-y, je conjugue tout au conditionnel.
non, mais c'est quoi ton rêve maintenant?
J'ai du mal à me positionner là-dessus parce que j'avais quand même trois rêves de carrière sportive qui étaient très identifiés. C'était honorer le maillot de l'équipe de France. C'est fait. C'est gagner la Saint-Élion, ma course de cœur, et faire un podium à l'UTMB. C'était un peu mes trois objectifs sportifs. Et là, avec le recul, en fait, je me rends compte que c'est des rêves qui sont très très liés à la performance, au résultat. Et je me rends compte que ce que je rêve encore plus, c'est d'atteindre ça et de le transformer en quelque chose de positif. Et j'ai un quatrième rêve, et là, c'est... En fait, je tease ce projet, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont l'écouter, qui vont vouloir m'aider dans ce projet, et c'est aussi une manière de le dire, et du coup, m'imposer de le faire un jour. C'est, je sais pas si tu connais un petit peu cette histoire, c'est la marche des beurs. Donc c'est une marche qui est partie, on va fêter les 40 ans là de le 15 octobre. C'est une marche pour la tolérance qui est partie du quartier des, enfin, qui est née en fait d'un embrasement des banlieues en 83. Pour célébrer, alors je te raconte l'histoire très rapidement, mais pour célébrer la tolérance. Et cette histoire, elle part des Minguettes, donc c'est un des quartiers, c'est un des quartiers de Lyon, et c'est en l'occurrence le quartier du gars qui m'a un peu secoué pendant que j'étais au collège. Et je me suis dit qu'un jour, cette marche, donc qui est partie en 83 et qui a duré plus d'un mois pour aller jusqu'aux Champs-Élysées et qui s'est fini aux Champs-Élysées. Ils n'étaient pas beaucoup à partir et ça s'est fini aux Champs-Élysées. Ils étaient des centaines, voire des milliers. Et je me suis dit qu'un jour, bah, je montrais un projet avec des jeunes de là-bas et qu'un jour, on la courra en relais. Et j'en ferai un film ou un livre et ce sera un message d'espoir et de tolérance via la course à pied. Voilà. C'est mon rêve. C'est mon rêve.
Et t'aurais envie de lui mettre une date à ce rêve?
Dans pas trop longtemps.
Ok.
Mais du coup, moi, ma vision du longtemps, elle est pas la même que tout le monde depuis l'UTMB. Je t'ai dit que ça bougeait les référentiels. Non, mais je pense qu'il faut que... Pas tout de suite, parce que faut d'abord que je m'accomplisse en tant que sportif et que je fasse des choses sportivement. Et qu'après, j'ai suffisamment d'apaisement et de me dire, ok, je suis légitime pour porter ce projet et être... Tu vois, aujourd'hui, auprès d'un jeune, tu dis, il a fait top 10 à l'UTMB, il est champion de France de trail, et ça, enfin, dans ces quartiers-là, le trail, c'est tellement loin. J'ai pas de, par contre, t'arrives, t'as fait un podium à l'UTMB, t'as gagné une Saint-Élion, t'es accompli. Je pense que t'as une légitimité pour porter ce message et tu te dis, ok, j'ai fait ça, c'est bon, c'est fait, maintenant je peux me faire à la fois le sportif et la côté. Donc, c'est plutôt du moyen terme.
Ça marche. La nuit tombe, on est complètement dans le noir pour ceux qui vont regarder en vidéo. Je vais t'engager effectivement à te libérer et il faut qu'on prenne 2 minutes pour se faire un petit câlin après ce moment. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir à qui est-ce que tu t'auras envie de donner la parole pour raconter une course, pour parler un petit peu plus d'engagement ou pour parler de passion course à pied. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir?
Alors j'ai deux gars en tête et une fille. Alors par contre c'est très tourné vers le trail.
Vas-y.
En gars, bah c'est deux Simon. Tu pourrais faire d'une pierre deux coups parce qu'ils habitent, ils sont voisins, ils habitent dans le Beaufortin. Donc il y a Simon Duguet, donc qui crée, c'est un ami, c'est un coup de foudre amical. Genre, je le connaissais pas il y a 4 ans, il est venu, il cherchait un logement à Lyon parce qu'il avait un tournage je sais pas où. Je lui dis, mais mec, viens, on avait discuté un peu, je dis, viens à l'appart, viens squatter, viens dormir là. Et en fait, on a refait le monde et depuis, on est devenu ultra potes. Et je dis, c'est un coup de foudre amical parce que, d'un coup, on est devenu ultra amis et ça a pas bougé depuis, quoi.
Trop bien.
Et lui, il a une vision, donc je le corrèle au trail, il a une vision de... vidéaste, photographe, il porte un œil à part en fait sur tout le phénomène et je trouve que c'est hyper intéressant, surtout qu'il a une personnalité vachement texturée. Okay. Donc, lui sur cet aspect-là et Simon Gosselin, si tu vas un peu plus loin, si tu fais la route jusqu'à, tu prends ta voiture, ou ton vélo, tu fais 2-3 bornes. Et lui, Simon, c'est mon coach et depuis 5 ans et c'est un personnage d'une bonté exceptionnelle. C'est un super fort athlète. Et à côté de ça, c'est un putain de coach qui, en fait, c'est pas seulement un entraîneur. Il t'englobe dans un tout qui fait que tu t'es performant en tant qu'athlète si t'es épanoui en tant qu'homme. Et il maîtrise à la perfection ce que moi j'adore, c'est la bienveillance exigence. C'est-à-dire qu'il a le complément hyper rare, mais du coup, quand il dit que c'est bien, tu sais que c'est hyper juste, donc tu sais que c'est bien. Et donc voilà, ces deux gars-là. Et après, sur le côté athlète féminine, ben moi, je m'entends extrêmement bien avec Marion Delespierre, qui est devenue championne du monde de trail et qui est lyonnaise aussi, enfin, d'adoption lyonnaise. Et Enfin, je trouve qu'elle a un recul et une simplicité liée à sa perf qui est juste admirable. Enfin, et je sais pas, peut-être que je l'admire aussi parce que je me rends compte qu'elle est hyper épanouie dans deux projets et qu'elle en fait une force plutôt qu'une faiblesse. Et voilà. Et puis qu'elle sait faire elle sait être légère, elle sait prendre l'apéro, elle sait être sérieuse quand il faut. Enfin voilà, bienveillance, exigence encore. Donc voilà, ces trois personnages. Et tu pourrais même, c'est des gens qui viennent ici. Hein, donc tu viens un jour. Mais
écoute, grand plaisir. Avec grand plaisir, j'aurais dû te demander avant pour parfaire mon séjour lyonnais. Mais écoute, ça me donnera une occasion de revenir et de pouvoir se revoir.
Bah avec grand plaisir, ouais.
Salut Baptiste.
Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.